Salut Blockbuster, c'est Elise. Écoute, ça fait 2 mois que j'ai découvert ton émission, 2 mois que j'ai écouté ton émission tous les jours, j'ai écouté tous les épisodes de toutes les saisons, et là, bah, je suis en manque en fait. Ça y est, j'ai fini. Buffy d'ailleurs, merci. J'ai fini par Dallas et je n'ai plus rien. J'ai comme un grand vide dans ma vie. Alors, fais quelque chose, mais fais-nous des épisodes. C'est tellement génial cette émission. Je peux te donner des idées si tu veux, hein. Prince of Persia, John Hughes, Ranma à demi, je sais pas, mais reviens. Merci, hein.
Bonjour Monsieur Sigrist, un petit message simplement pour vous dire que grâce à vous, je me suis rendu compte que sans le savoir, étant un individu curieux, j'étais fan des jeux From Software. Je n'ai jamais mis la main sur un Souls, mais il s'avère que j'ai appris dans votre émission que ce sont eux qui faisaient Armored Core, qui est une licence qui m'a beaucoup occupé dans ma jeunesse et que j'adorais voir revenir. Donc, bah, à la fin de l'émission, vous vouliez un Dark Souls 2, des choses comme ça. Moi, je veux un nouvel Armored Core en méga HD. Et là, je rachèterai une console et peut-être que je vendrai mes enfants pour trouver le temps de jouer. Merci pour votre émission et à bientôt.
Oui, bonjour Blockbuster, bonjour Frédéric. Ah, je viens d'écouter le podcast sur Elden Ring. Eh bien, évidemment, comme chaque fois que j'écoute un nouveau podcast, j'ai envie d'aller voir ou d'aller jouer. Hein? Donc, j'ai attaqué Demon Slayer, là, il n'y a pas très longtemps, la série. Et là, j'ai super envie de jouer à Elden Ring. Mais je voudrais soulever un point très important. Le temps. Quand est-ce que je vais avoir le temps de jouer à Elden Ring? Parce que j'ai même pas fini The Witcher 3, j'en suis même pas au début de Cyberpunk. Il y a plein de jeux que j'arrive même pas à terminer. Et j'ai pas le temps. Je sais pas comment vous faites tous pour trouver le temps à jouer à tous ces jeux-là. Je suis à des centaines d'heures de jeux sur plein de jeux différents. Mais je fais comment, moi? Donc c'est super bien de nous mettre l'eau à la bouche. Mais moi, j'en peux plus. Il faut que je me dédouble ou que je trouve un triple. Je sais pas, que je divise mon cerveau en quatre. Allez, je vous aime, des gros bisous.
Quand tu es humoriste, s'il y a bien une question qui te fait dire que le journaliste en face de toi n'a pas vraiment bossé, c'est d'après vous, peut-on rire de tout? Ah, oh mais franchement, c'est quoi ce vieux débat claqué au sol? Parce que sincèrement, y a pas besoin d'user du papier ou de la bande passante pour poser une question pareille. Après, ça va être quoi? Et d'après vous, des proches et Coluche, ils seraient pas en prison aujourd'hui? On peut plus rien dire, non? La seule chose que l'on dit vraiment quand on balance ce genre de banalité, c'est que ça fait 30 ans qu'on n'a pas mis les pieds dans une salle de spectacle. Parce que des humoristes, hommes et femmes, d'âge, de couleur et de religion différentes, il y en a qui rient de tout, partout sur la planète et depuis longtemps. Alors bien sûr, ce seront peut-être pas ceux que vous verrez sur le canapé rouge de chez Drucker. Mais moi, c'est pas parce que j'ai pas d'endives dans mon frigo que ça n'existe pas. On peut évidemment rire de tout. Par contre, ce qui a changé, c'est que ceux que ça ne fait pas rire auront l'occasion aussi de le faire savoir. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de liberté d'expression que certains artistes se censurent aujourd'hui, mais parce qu'il y en a beaucoup plus. Ce qu'on appelle la soi-disant liberté d'antan, c'était juste le silence de ceux qui ne se marraient pas. Donc à la question de savoir si on peut rire de tout, la réponse est une nouvelle fois oui, mais en 2022, il faut accepter que tout le monde ne rira pas.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Prends la route de South Park, histoire de prendre un peu l'air.
Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut.
Prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères.
Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée.
J'taille la route pour South Park, histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et j'vous présenterai des potes.
Commencer une phrase par « les Américains sont », c'est le meilleur moyen de dire une grosse ânerie, tant ce pays est vaste et les mentalités différentes. Le même pays qui aujourd'hui, sous l'influence de mouvements conservateurs et religieux, remet tristement en cause le droit des femmes de disposer de leur corps avec le droit à l'avortement, est aussi celui qui a fait naître une série aussi irrévérencieuse et libertaire que South Park. Cette série déjantée, née en 1997, fruit de l'imagination de Trey Parker et Matt Stone, vient d'achever la diffusion de sa 25e saison aux États-Unis. Monument de vulgarité pour certains, incroyable satire politique de la culture américaine pour d'autres, South Park, à la manière de Charlie Hebdo ou du magazine Harakiri en France, n'a laissé personne indifférent. Pour revenir sur cette série, j'ai avec moi Bruno Roca, bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour. Vous êtes éditeur et rédacteur en chef aux éditions Omake Books, auteur de Génération Resident Evil et Génération Sitcom d'animation.
Exactement. Je suis très heureux d'être là, surtout pour parler de South Park.
Parfait. Avec nous également Tanguy Bancelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant en master cinéma à Sorbonne Nouvelle et critique pour le site internet Le Bleu du Miroir.
Tout à fait, c'est bien ça.
Avec nous également Dedo.
Ouais,
la foule est en liège.
Oh, il est revenu.
Dedo, vous êtes humoriste, comédien et vous êtes actuellement sur scène au Point Virgule tous les jeudis à 19h avec un excellent spectacle qui rend la vue aux aveugles, immunise du Covid et fait revenir l'être aimé et qui s'appelle Biafine, qui est aussi, on peut le dire, le nom de votre enfant.
Tout à fait, et ça fait aussi repousser les jambes coupées, mais tout ce que tu as décrit est aussi très véridique. Tout est vrai,
tout est vrai.
Merci beaucoup.
Allez voir ce spectacle. Ensemble, on va retracer l'histoire du dessin animé pour adultes South Park, mais surtout, on va tenter de comprendre qui sont vraiment Matt Stone et Trey Parker, le formidable duo derrière cette série, en quoi elle a ouvert la voie à un autre type de satire, et surtout comment elle a pu s'affranchir de la censure et rester pertinente aussi longtemps. Oreilles chastes et sensibles s'abstenir, Blockbuster spécial South Park, c'est parti.
Comment ça va les mecs?
On peut savoir ce qui te rend si joyeux, gros lard?
Oh rien, c'est sans importance vraiment.
Mais dis-nous quand même.
Bon d'accord, il semblerait que je sois le premier d'entre nous à devenir un homme finalement.
Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes?
Eh ben, contrairement à vous, les mecs, moi, je suis devenu pubère.
C'est quoi, pubère?
Ça veut dire qu'il commence à avoir des poils au pubis.
Oh non, t'en as pas?
Oh si, j'en ai, je deviens un vrai mec.
C'est des conneries.
Vous voulez les voir?
Putain, non.
Je vais vous les montrer.
On n'a pas envie de les voir, Cartman.
Tenez, voyez, qu'est-ce que vous dites de ça?
Mais c'est quoi ça?
Mes poils, tiens.
Quoi?
Je les ai eus par Scott Tenorman.
Scott Tenorman, celui qui est en seconde?
Ouais, il me les a vendus rien que pour 10 dollars. J'ai des poils avant vous, les mecs! J'ai des poils avant vous, les mecs!
Cartman est de quoi à ce point-là? C'est à peine croyable!
Soyez pas jaloux, allez! Ça vaut pas dire qu'on va arrêter d'être potes, ça veut juste dire que je grandis plus vite que vous. Un jour, vous aussi, vous aurez des poils.
Cartman, ça s'achète pas, la puberté, faut attendre que ça arrive!
Quoi?
Quand t'es devenu assez grand, t'as tes propres poils qui poussent. C'est pareil que les cheveux, pauvre tâche!
Mais non!
Mais si!
Mais alors pourquoi Scott Tenorman m'a vendu ses poils pour 10 dollars?
Parce que, abruti, il a trouvé quelqu'un d'assez con pour lui acheter ses poils 10 dollars!
T'es en train de me dire que ses poils ne valent rien?
Ouais!
Il va voir sa gueule, ce connard!
Je lui ai dit, c'est une affaire en or, je te vends mes poils seulement 10 dollars et ce gros débile me les a achetés! Quand on parle du loup, qu'est-ce que tu veux, toi?
Bah voilà, je viens de prendre tes poils, tu veux bien me rembourser?
Non, pas question, je regrette.
Ouais, mais tu vois, j'avais pas réalisé quand je t'ai acheté ces poils de cul que t'étais un empaffé. Alors je te conseille de me rendre mes 10 dollars ou je dirai à ma mère d'en parler à tes parents.
Eh bien voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'extrait qui pouvait mieux résumer l'esprit South Park que celui-ci. Alors je vous pose une question à vous trois. Comment avez-vous découvert South Park et qu'est-ce que ça représente pour vous, Bruno Roca?
Moi, j'ai découvert ça quand c'est arrivé sur Canal+. En 98, on l'a eu assez tôt, comme les Simpsons d'ailleurs. C'est vrai que Canal là-dessus, c'était top.
Ça, c'était avant.
C'est un autre temps. Grosse claque. En fait, moi, c'est vrai que pour être tout à fait honnête, je suis quand même plus Team Simpson. Moi, j'ai découvert Simpson avec Canal+. C'est là que j'ai découvert les sitcoms d'animation, etc. Mais South Park, ça a été une grosse claque, surtout dans cette volonté de choquer. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Au début, la volonté première, vraiment, c'était de choquer. C'est vrai que le discours s'est affiné au fil des saisons. Mais le premier épisode, la sonde Anna, le shoot dans le bébé, tout ça, c'était
avec
incroyable.
Les enfants qui se mettent à vomir.
Dès que ça...
Il y avait quelque chose de très régressif. Hein.
En fait, c'est ça. C'était pipi, caca, violence. C'était un peu le message. Et surtout avec une imagerie qui renvoie aux séries pour les enfants avec ces techniques de papier découpé. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis on sentait que c'était vraiment un phénomène. Il y avait des papiers qui ont précédé l'arrivée sur Canal. Donc c'est grosse claque la première fois que je l'ai vu.
Tanguy,
moi du coup c'était plutôt, ça s'est vraiment fait en trois temps. La première fois c'était vraiment par hasard chez mes grands-parents, parce que mes grands-parents avaient Canal Satellite sur Game One et c'était à 7-8 ans. Et c'était l'épisode, je sais pas
c'est
si
tôt.
Vous en souvenez. Très tôt. Et c'était l'épisode, je sais pas si vous vous en souvenez, celui sur Thanksgiving où ils veulent faire une adaptation de la vie d'Hélène Keller et ils cherchent une dinde pour jouer le personnage qui suit Hélène Keller, qui est joué par Timmy d'ailleurs dans leur pièce de théâtre. Et en fait, c'est vraiment un épisode où il y a une poule qui se fait massacrer, des poulets décapités, des flashbacks d'images réelles, d'émeutes, de meetings d'Adolf Hitler quand Eric Cartman ferme les yeux. Donc 7-8 ans, c'est très 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 violent. Et après, en fait, j'ai redécouvert ça au fur et à mesure au collège avec des amis. On se passait des épisodes. J'ai un ami que j'embrasse du coup, Rémi, s'il m'écoute, qui du coup lui avait tout vu déjà 2-3 fois facilement à 12-13 ans. Et du coup, il nous envoyait les
depuis,
épisodes.
Il est devenu complètement anarchiste, il a son grain.
Non, depuis ça va. Et en fait, à 12-13 ans, il nous envoyait les épisodes qu'il considérait vraiment comme les meilleurs. Et du coup, il y a Scott Tenorman doit mourir qu'on vient d'écouter. Il y a Le Supermarché des Ténèbres, Conjonctivite, voilà, des épisodes qui sont devenus assez cultes. Et après, c'est à 17 ans où je me suis dit, après avoir vu Team America notamment, où je m'étais dit, faudrait que je regarde tout pour me faire une idée vraiment de ce que c'est.
Team America, qui est le film de Parker
Stone. Oui, qui est le film de Parker et Stone qu'ils ont fait en 2005-2006 dans ces eaux-là. Et du coup, à 17 ans, 18 ans, j'ai décidé de tout regarder d'affilée. Voilà. Et du coup, depuis, je suis devenu complètement fou de cette série. Et par rapport aux Simpsons, là où je trouve ça fou, c'est que vraiment les Simpsons, je trouve que ça représente vraiment une espèce de satire de la classe américaine moyenne. Tandis que South Park, le spectre est très large, quoi. C'est la transgressivité extrême. Ça parle de tout, ça met tout, ça ose tout montrer. Et on en reparlera façon dans l'émission, mais voilà, c'est ce que ça représente pour moi.
C'est un petit peu stérile de les opposer. Il y a presque quelque chose de complémentaire entre les Simpsons et South Park. Ce que les Simpsons ont permis, c'est l'émergence de South Park et ainsi de suite.
Je dirais même que c'est une sorte de sainte trinité, South Park, les Simpsons, et moi je mettrais dans l'eau Beavis and Butthead de Mike Judge, qui forme déjà une espèce d'axe de régression à la télévision qui n'est pas du tout connu et démocratisé à l'époque.
Avec une toute petite parenthèse à propos de Beavis and Butthead, ce joyau, toujours pas réédité, qui s'appelle Daria.
Ouais, tout à fait. Mais qui est sur Comedy Central depuis début janvier.
Oui, heureusement. Ouais,
qui est ressorti.
Heureusement.
Les problèmes de réédition de Daria viennent aussi du fait des besoins, en fait, de récupérer les musiques originales qui sont compliquées. Et on trouve malgré tout un bootleg de DVD que j'ai où il n'y a pas les musiques originales. Donc ils ont trouvé cette feinte-là pour pouvoir éditer tout ça.
Oui, parce qu'à l'époque, ça passait sur MTV, du coup, ils profitaient des clips de MTV pour habiller... voilà. Moi, Daria, c'est vraiment une série que j'aime d'amour. Fabuleux. Et je rêve que ça... Voilà, c'est pour ça que je tenais absolument qu'elle soit en couverture de mon bouquin, parce que c'est une série qui a un discours tellement, tellement profond, énorme, et surtout qui est arrivée à peu près dans cette vague. Daria, c'est 97, South Park, c'est fin 97 aux États-Unis. Donc oui, ça fait partie de cet après-Simpson récent. C'est les contemporains de Simpson assez récents et ouais, c'est des séries vraiment que j'invite tout le monde à découvrir.
Alors pour revenir à South Park, de quoi ça parle rapidement, Tanguy ?
Alors de quoi ça parle ? Avant tout, South Park, c'est l'histoire de quatre enfants donc dans la ville fictive de South Park dans le Colorado. Donc il y a Stan, c'est le personnage principal, c'est à vrai dire le leader naturel du groupe. Il y a Kyle, c'est son meilleur ami qui lui a été élevé dans une éducation juive assez stricte. Il y a Cartman, c'est un enfant dont on pourrait mettre à peu près tous les adjectifs péjoratifs du monde: colérique, psychopathe, manipulateur, antisémite, raciste, narcissique, tout, à peu près tout y passe. Et Kenny, qui est un personnage qui à la base mourait tout le temps et qui est vêtu d'un anorak.
Un anorak qui est trop serré, c'est pour
trop
ça que quand il parle,
dont on ne comprend rien, ou on peut parfois comprendre à peu près ce qu'il peut dire, mais c'est très rare.
Il parle comme Jean Lassalle, mais avec une cagoule.
C'est ça, voilà. C'est que lui au moins a une circonstance, en fait. Et ça commence comme ça, et après la série va s'ouvrir encore plus avec des nouveaux personnages. Il y aura l'introduction de personnages comme les handicapés Timmy et Jimmy. Il y aura Butters. Du coup un
souffre-douleur
souffre-douleur de Cartman, un enfant naïf.
C'est la victime.
La victime victimisée par les enfants et par ses parents. Et après, il y a aussi les parents du coup des enfants, donc Randy et Sharon, les parents de Stan, et Gérald et Sheila, les parents de Kyle, qui seront aussi personnages principaux au fur et à mesure.
J'en profite pour dire que Butters a réussi à donc créer cette magnifique chanson à son image, qui est "Et on lui met quoi quoi dans les fesses", que je conseille vraiment à tous les enfants du monde.
Et Louloulou, je cueille des pommes.
Tout à fait.
Qui se termine par "On se met tout nu" et Louloulou.
Il faut imaginer que les auditeurs qui ne connaissent pas South Park se disent mais
qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce que c'est que cette série,
qu'est-ce qu'ils disent
vraiment il y a une série, mais c'est vrai que on parle souvent de vulgarité dès qu'on évoque South Park. Pourtant c'est des sujets abordés, c'est souvent des sujets de fond et qui sont traités avec un humour irrévérencieux, mais il y a toujours beaucoup de sérieux, et mine de rien, il y a des gros messages qui sont adressés dans South Park, Bruno Roca.
Oui, en fait, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment voulu. South Park devait se démarquer, et on reviendra peut-être sur l'histoire de, enfin, la naissance de la série tout à l'heure, mais c'est vraiment lié aussi au fait que ça a été diffusé sur Comedy Central, qui à l'époque était une chaîne qui avait besoin de marquer les esprits, qui était une chaîne naissante. Voilà. Et fallait marquer le coup. Et en fait, South Park, si elle a cette réputation encore pour les profanes d'une série pipi caca qui va pas plus loin, bah en fait, c'est un petit peu leur faute aussi, c'est le retour du bâton, parce qu'elle était vendue comme ça au début. C'était la première série animée sur une chaîne non payante qui était interdite aux enfants. Elle a été diffusée vers 22h. Et toute la communication s'est faite autour de ça. Attention, si vous regardez ça, c'est sulfureux, c'est violent, c'est très vulgaire. Donc ça, c'était en fait l'accroche de départ. Et effectivement, pour ceux qui connaissent, quand on gratte derrière, effectivement, il y a ce côté vraiment satire. Comme tu le disais, de vraiment de la société américaine, mais au sens large, vraiment une vision macro du pays. Mais on l'avait un peu au début, et c'est vrai qu'après, ça s'est vraiment beaucoup plus focalisé sur la satire. Mais au début, c'est une accroche, entre guillemets, marketing, parce que la direction de Comedy Central voit Parker et Stone, ils sentent qu'ils vraiment, ils sont complètement barrés, ils n'ont aucune limite.
On va parler de ce duo, mais voilà. On a affaire à deux personnalités qui sont absolument intransigeantes avec ce qu'ils ont envie de dire et de montrer.
Oui, c'est les premiers punks à avoir accès à ce point-là, à un média d'animation, et du coup, ça se transforme forcément à l'écran. Mais c'est vrai que ce qui a fait que, généralement, ils réussissaient de manière assez brillante, d'ailleurs, à se servir de l'info qui était assez prégnante sur le moment, c'est aussi la façon de produire les épisodes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que pour eux, c'était plus simple d'aborder certaines thématiques d'actualité s'ils arrivaient à faire rentrer un épisode, et c'est ce qu'ils font maintenant, à partir de la saison 2 ou 3, ils l'ont fait. Il y a un documentaire là-dessus d'ailleurs qui s'appelle
6 Days to Air.
Exactement, oui. On voit donc que pendant un épisode rentre en 6 jours. Donc ça leur permet d'avoir des possibilités d'actu et une réactivité qui fait qu'ils sont sur le moment beaucoup plus que n'importe quelle possibilité de média. Et déjà, ça, c'est une véritable force pour pouvoir aborder ça.
En venant dans le RER ce matin, je me regardais un épisode, l'épisode où, de la saison 25 où Cartman refuse de se faire vacciner. Donc évidemment, on est en pleine ère Covid, parce qu'en fait, il est convaincu que si jamais il reçoit le vaccin, ça va faire de lui un artiste, parce qu'il voit que des artistes faire la publicité du vaccin. Donc il dit non, je veux pas devenir artiste. Et en fait, à chaque fois qu'on l'amène chez le médecin, il commence à pousser des petits cris de cochon et il se déshabille et il se recouvre de vaseline pour éviter qu'on l'attrape. Et donc en fait, les parents, toute la ville organise un rodéo pour vacciner les enfants récalcitrants, où ils les lâchent comme des taureaux avec des médecins qui leur courent après pour les piquer, et après on les ligote avec un lasso. C'est à mourir.
Ah bah oui.
C'est
à mourir. Mais tu vois, tu viens de résumer l'essence même de la série, c'est-à-dire que sous un vernis très absurde, très presque vulgaire par moment, mais pas que par moment d'ailleurs, il y a toujours du fond, il y a toujours une réflexion et un sujet. Et c'est ça qui fait que je pense que le succès de cette série perdure, c'est que justement ils arrivent à se renouveler et ils arrivent à attirer plusieurs degrés de génération. Parce que en restant sur des thèmes qui peuvent rester actuels, et en étant très marrant par ce biais-là, et parfois agressif et rentre dedans, bah du coup, le spectre est tellement large que ça attrape.
Ouais. Tant que Célie.
Néanmoins, après, sur South Park, il y a quand même une scission qui existe. C'était dans une vidéo, je crois, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Pilote, qui a fait une analyse du pilote de South Park et qui expliquait que, selon lui, il y avait une scission entre deux parties de South Park. Il y a les premières saisons où c'est un humour vraiment très potache, qui reste toujours très puéril, hein, ça restera jusqu'à la 25e saison, jusqu'à aujourd'hui. Mais on commence à rentrer dans quelque chose de nettement plus acerbe à partir de la 8e, 9e saison, où il commence à rentrer vraiment dans la pure actualité et de manière très, très, très acerbe, très, très satirique. Mais voilà, en gardant toujours cet aspect très puéril infantile de toutes les blagues, je suis d'accord qu'il y a un vrai message politique, mais il est quand même assez réduit à quelque chose de vraiment gamin. Moi, je pense à Michael Moore, où à un moment, ils avaient eu un différend avec Michael Moore sur le film Bowling for Columbine, parce qu'il utilise une animation qui ressemble à celle de South Park, en disant « oui, c'est Matt Stone qui me l'a fait », sauf que ça n'est jamais arrivé. Et du coup, pour critiquer Michael Moore, la seule manière dont ils l'ont critiqué, ça a commencé à Team America, ou dans leur film, où donc du coup, c'est un film fait avec des marionnettes, et en fait, Michael Moore...
Inspiré par les Sentinelles de l'air, les Thunderbirds.
Tout à fait, par les Thunderbirds, et Michael Moore, en fait, est présenté uniquement en train de manger, et à la fin, il explose parce qu'il se fait exploser comme un kamikaze, et on s'aperçoit que son corps est constitué à 100% de salami. Donc voilà, c'est les grandes blagues de South Park, ça reste quand même très gamin.
C'est très gamin, et en même temps, il y a un côté, on va jusqu'au bout du mauvais goût.
Oui.
Voilà, leur haine absolument incompréhensible pour Barbara Streisand.
Très tôt.
Dès le début, et ils l'ont assumé du début à la fin. C'est-à-dire que même interviewé en dehors du dessin, dit mais pourquoi est-ce que un jour vous allez laisser tranquille Barbara Streisand? Il dit non, jamais, parce que notre mission c'est de combattre le mal, et Barbara Streisand c'est le mal. Donc vraiment, Et oui, il y a ce côté punk, on va jusqu'au bout du truc et on lâche rien.
Oui, puis ils aiment bien justement s'attaquer à des figures tutélaires, parce que ça tape dans la scientologie par rapport à Tom Cruise, par rapport aux actions de Mel Gibson. Mais en même temps, il y a toujours une critique derrière, c'est-à-dire que typiquement, on peut parler des dérives de la musique pop qui attrape des enfants sur des trucs un peu nuls, quand je dis attrape des enfants, c'est-à-dire les auditeurs, en passant par un biais où du coup Justin Bieber peut se faire tuer par Cthulhu. Voilà, donc c'est malin, c'est très malin au final.
En plein concert où sa voix est accélérée.
Exactement, oui.
Ça, et pareil sur le téléchargement illégal, quand ils vont à la maison de, je crois que c'est Lars Ulrich, je crois, de ouais. Metallica, mmh. où ils vont le voir et enfin, regardez comme il est triste, il pourra plus acheter une Porsche à cause de votre téléchargement illégal.
Ah ouais, parce que Napster, ça a été quelque chose de très très mal pris.
C'est pour ça qu'au début, ils avaient des guest stars quand même, comme le veut la tradition, enfin tel que les Simpsons l'ont imposé un peu. Et très vite, au fil des saisons, les voix, donc les personnalités qui prêtaient leur voix, se sont raréfiées parce que justement, c'est dans ce côté punk, Parker et Stone voulaient
dépendre
une liberté totale, ils voulaient dépendre de personne.
On ne veut pas pouvoir dire merci à telle ou telle personne d'avoir participé à l'émission.
Et donc, éviter d'avoir des guest stars, c'est aussi avoir la liberté totale de dézinguer. C'est vrai que je reviens sur ce que disait Dedo sur la durée de production d'un épisode, c'est 6 jours. C'est vraiment quelque chose d'unique, quoi, parce que là effectivement ils sont dans la satire, dans le commentaire politique, sociétal, alors que pour une série plus classique, on peut prendre les Simpsons, on peut prendre American Dad, ce que vous voulez, là c'est plusieurs mois vraiment pour accoucher d'un épisode, donc ils ont cette réactivité qui est assez inédite, et je pense que effectivement comme on le disait, c'est pour ça que ça continue de marcher, parce que ça résonne en fait dans chacun des téléspectateurs.
Donc en fait, on est presque plus dans une... Alors, faire comparaison n'est pas raison, mais on est plus proche des guignols de l'info de l'époque, tels qu'on a pu les connaître à Canal+, à un certain moment, en termes de commentaires de l'actualité, à certains moments, on est plus proche de South Park que des Simpsons.
C'est à la croisée des chemins, en fait. C'est ça qui est étonnant que South Park, c'est que oui, c'est à la fois ça, c'est à la fois vraiment une sitcom d'animation avec ses codes. C'est un monstre un peu difficilement définissable, en fait. Mais oui, c'est un peu à la croisée des chemins. Ouais.
Est-ce que vous avez un épisode fétiche? Vraiment, l'épisode qui, pour vous, résume totalement l'esprit de South Park et que vous montreriez à quelqu'un qui ne connaît pas, il faut que tu regardes ça, regarde cet épisode.
Moi j'en ai deux. J'en ai deux personnellement, et qui sont assez différents, mais qui résument bien pour moi l'esprit de la série. J'ai l'épisode où Cartman fait croire à tout le monde qu'il a une main en Jennifer Lopez, ce qui est totalement absurde, et donc au bout d'un moment, il les persuade vraiment, donc il a sa main est Jennifer Lopez, il prend la voix de Jennifer Lopez, il dit « Je vous jure que ma main, c'est Jennifer Lopez ». Tout le monde dit « Ah mais c'est bon, arrête, laisse-nous tranquille, tu dis n'importe quoi ». Et au bout d'un moment, ses potes croient, ils se disent bon bah c'est peut-être la fin, et en fait le fin de l'épisode, c'est lui qui fait ah je vous ai bien niqué, fin. C'est magnifique, ça n'a aucun sens, c'est absurde, ça ne tient sur rien, je trouve ça merveilleux.
Et l'épisode va très loin par rapport
à ça. Ah mais complètement, c'est... parce qu'il y a des histoires de masturbation avec oui. des personnes, mais voilà, donc il y a ce pan là qui pour moi est très spécifique qui est le côté Monty Pythonesque presque que assume très Parker et Emma Stone d'ailleurs. Et il y a l'épisode qui doit s'appeler l'état du trou du cul cynique,
oui,
où un jour Stan oui. se réveille, tout le monde est à fond sur un groupe qui vient de sortir un CD, la Twin Wave.
La Twin Wave, ouais, c'est le groupe, voilà. C'est Garth Plouffe.
Exactement. Et en fait, lui, quand il écoute, il se rend compte qu'il entend que des bruits de paix. Et il comprend pas parce que tout le monde trouve ça super. En fait, il se rend compte que, en fait, il a grandi, qu'il trouve que tout devient un peu de la merde. Et du coup, il traverse une sorte de crise existentielle en se demandant « Mais alors, qu'est-ce qui va se passer de ma vie si je trouve que... » Et en fait, ça renvoie à quelque chose d'assez fort. Ses parents divorcent pendant l'épisode.
Tout à fait.
Et on se retrouve à la fin de l'épisode pour une première fois où il n'y a pas un final assumé avec Cartman... j'ai plus le nom, ça y est.
Stan
qui ne meurt pas et qui ne donne pas une maxime de fin, où on se rend compte que juste il est là avec une chanson de Steve... oui. On se rend compte que Stevie Nicks, donc cette chanson de Stevie Nicks s'appelle Landslide, qui parle quelque part de grandir, de vieillir et d'appréhender les choses d'une manière nouvelle et peut-être un peu déprimante. On se retrouve face à ça et l'épisode s'arrête, qui est un épisode de mi-saison. Et ça a été un moment charnière pour moi parce que là je me suis dit, ok, donc on peut aborder des problèmes de fond, de sociétaux, de culture, d'actualité, mais là en plus on parle de phénomènes de vie. Et je trouve ça assez fabuleux de balayer autant de thématiques dans un seul et unique dessin animé qui est une création artistique.
Oui, c'est-à-dire le spleen du vieux geek
complètement.
Par exemple, qui va voir les dernières franchises.
Et qui trouve ça vraiment de plus en plus nul, sans raison, même si c'est bien, il dit « Oh, mais c'est tout le temps la même chose. »
L'univers, Don Vat.
Exactement.
Oui, complètement blasé.
Et c'est vraiment
toute
un axe très intéressant.
Avec des personnes ayant
été présent ici dans ce plateau un jour.
Tanguy Mosely.
Bah d'ailleurs, à propos des franchises de super-héros, dans cet épisode, ils vont au cinéma à un moment et ils vont voir X-Men Le Commencement.
Oui.
Et il dit au début, promis, je serai pas cynique. Et quand il arrive dans la salle et qu'il voit que c'est First Class, il s'assoit, il regarde tout le monde, il fait « Merde !» Non, au niveau épisode fétiche, j'en avais deux aussi. Et en fait, les deux sont de la même saison. Parce que je trouve que là, notamment là, c'est la saison 8. C'est l'épisode, par exemple, avec quand Jimmy prend des stéroïdes. Donc c'est une saison que je trouve vraiment incroyable, où tous les épisodes sont vraiment très drôles. Et en fait, celui que j'ai choisi, c'est Génialo. C'est celui où Cartman se déguise en robot pour faire croire, pour essayer de trouver des secrets à Butters. Sauf que c'est le moment de la vengeance de Butters dans toute la série de South Park, dans tout South Park. Et c'est vraiment le medley. C'est le medley de tout ce qui est South Park, quoi. C'est un croisement de célébrités où ils passent 5 minutes à essayer de pitcher les prochains films d'Adam Sandler à Paramount. Il y a faire entrer les enfants dans un monde adulte qui est encore plus absurde que leur propre imaginaire. Et donc moi je trouve cet épisode génial. Et le deuxième que j'avais choisi, qui est dans la même saison, en anglais ils l'ont appelé We Got Served, en français ils avaient gardé le titre original qui est On t'a niqué ta race, qui est un épisode
qui est une bonne traduction, hein.
Oui. C'était un autre titre en anglais encore plus hardcore que ça, et c'est celui où Butters fait des claquettes et en fait est traumatisé par un concours de claquettes qui s'est terminé en épisode de Destination Finale.
Destination Finale, qui est un film où en fait souvent des personnages échappés à un accident. Voilà, genre parc d'attractions, autoroute, et en fait la mort leur en voulait beaucoup d'y avoir échappé, et donc en fait elle les poursuit tout le film.
Et ils meurent tous dans des concours de circonstances extraordinaires.
Qui est un concept assez fou, c'est-à-dire que pour la première fois au cinéma, si on peut considérer ça comme un slasher Destination Finale, le tueur c'est quand même
la mort.
C'est compliqué de faire plus badass.
Avec des scènes d'une peut-être qu'un jour on en parlera plus longuement, mais avec des scènes d'une intensité dramatique énorme où un personnage s'est isolé du monde pour parce qu'il y avait tout est risque vu que la mort est partout, et il ouvre une boîte de thon et il a peur qu'elle lui tranche la voilà. Donc vraiment, et effectivement la salle est oh, attention, c'est coupant, le thon c'est coupant, c'est dire si l'histoire a été bien réussie. Voilà, parce que quand tu commences à être angoissé parce qu'une boîte de thon s'ouvre, c'est que le réalisateur a réussi son taf. Bruno Roca, un épisode fétiche?
Oui, c'est compliqué parce que moi il y en a plein qui m'ont marqué. Il y a rapidement celui où Cartman se prend pour un chasseur de primes qui parodie une émission The Dog.
Magnifique.
Celui-là ça, à chaque fois. Moi, qui ai toujours suivi la rivalité Simpsons-South Park, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui me touche particulièrement. C'est les Simpsons l'ont déjà fait. C'est l'épisode 7 de la saison 6 et qui revient justement sur cette sur ce qu'on entendait, ce qu'on lisait tout le temps. Oui, mais ça, les Simpsons l'ont déjà fait. Voilà, vous faites que des répétitions. Et donc, c'est assez marrant, quoi, parce que c'est Butters qui, dans la peau du professeur Chaos, veut faire abattre une calamité sur South Park. Et tous ces plans, en fait, se basent sur des pitchs d'épisodes de Simpsons. Et donc, il y a Dougie, à chaque fois, le général Désolation, qui est là. Oui, mais ça, non, les Simpsons l'ont déjà fait. Alors, il veut cacher le soleil comme Monsieur Burns. Donc, Dougie lui rappelle, non, mais ça, les Simpsons l'ont déjà fait. Bon, ça le saoule. Après, il veut couper la tête d'une statue. Il fait, non, mais ça, les Simpsons l'ont... Bon, comme ça, et puis au bout d'un moment, il devient complètement maboule, Butters, et tout l'univers de South Park se simpsonise en fait autour de lui.
Oui, ils deviennent tout jaunes.
Voilà, et j'ai trouvé ce qu'il y a des ping-pong comme ça entre les deux séries, j'ai trouvé cet épisode vraiment, moi il m'a marqué parce que voilà, ça communiquait entre eux, et puis je trouvais ça très sympa.
Et puis faire écho à d'autres séries, c'est aussi quelque chose qu'ils ont fait régulièrement. Moi, je pense à l'épisode où ça met un tir un peu au Griffin.
Family Guy.
Exactement. Oui. Parce que du coup, on apprend que les scénaristes de Family Guy justement sont des lamentins.
C'est des lamentins.
Qui tirent un peu complètement au hasard des boules où il y a des bouts de scénario et à la fin, ça fait un épisode. Et en fait, ils se moquaient gentiment de ça en disant qu'en gros, les personnages de la série disaient que c'était une série où en fait, il y avait juste des gags pour des gags et pas d'arc narratif. Mais il y a toujours un contrebalancement parce que dans le même épisode, à un moment, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a un conducteur de camion à un moment qui est là, bah ouais, mais moi j'aime bien, au moins comme ça, on se prend pas la tête et il y a pas tout le temps les messages à la con. Et ils s'envoyaient eux-mêmes ce tir-là quelque part en se disant, ouais, bon, c'est vrai que nous, on essaie toujours de faire passer une morale. Donc, ils ont suffisamment de recul et de second degré pour avoir aussi de l'autodérision par rapport à leur propre création. Là-dessus, ils sont très malins, très Parker et Stone.
Et en plus, South Park, c'est une série qui donne des solutions aux problèmes de la vie au quotidien. C'est-à-dire que quand, par exemple, on se sent agressé par l'actualité, la politique, les événements, eh bien, désormais, on sait qui accuser. avec le film South Park, il y a une chanson qui s'appelle Blame Canada. Mm. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, eh bien, vous pouvez blâmer le Canada. On l'écoute, Blame Canada.
Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society?
Or should we blame the images on TV?
No, blame Canada.
Blame Canada.
With all their beady little eyes and clapping heads so full of lies.
Blame Canada.
Blame Canada.
We need to form a full assault.
It's Canada's fault.
Don't blame me for my son Stan. He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf. But now when I see him, he tells me to fuck myself.
Well, blame Canada.
Blame Canada.
It seems that everything's gone wrong since Canada came along.
Blame Canada.
Blame Canada.
They're not even a real country anyway.
My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue.
Should we blame the matches?
Should we blame the fire?
Or the doctors who allowed it to expire?
Heck no!
Blame Canada!
Blame Canada!
With all the hockey hum-a-below and that bitch Anne Murray too.
Blame Canada!
Shame on Canada!
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Bonsoir, jeune homme. Je suis le chef de la Scientologie. C'est un grand honneur de vous rencontrer.
Et très bien. Pourrais-je savoir ce que tout cela veut dire ?
Il y a longtemps que nous attendions la venue de votre fils, Monsieur Marsh. Il est la réincarnation du prophète le plus sacré de notre Église.
Quoi ?
Et les scientologues du monde entier se réjouissent de sa seconde venue.
Monsieur, nous refusons que notre fils rejoigne votre groupe, compris ?
Nous ne demandons pas qu'il nous rejoigne. Nous voulons qu'il devienne notre guide.
Enlève-moi, y'a John Travolta.
C'est là qu'il habite, c'est là que Elrond habite, oh mon Dieu!
Ah oui, John Travolta et Tom Cruise sont d'éminents scientologues, me croyez-vous maintenant? Jeune homme, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais votre nom était Elrond Hubbard. Vous avez révélé le secret qui fut à l'origine de toute la scientologie.
Ok Stan, il est tard. Va dans ta chambre, il est l'heure de dormir. Laisse maman et papa régler ça.
Nom de Dieu!
Elrond! Elrond! C'est trop génial, c'est vous! Oh, c'est le plus beau jour de toute ma vie!
Monsieur, il faut que j'aille au lit.
Vous ne comprenez pas, Elrond, c'est moi, Tom Cruise!
Eh ben oui, hein, je vous ai reconnu.
Est-ce que j'ai tout bien fait, Elrond? Appréciez-vous mon jeu d'acteur? Lequel de mes films vous préférez?
Ben, je veux dire, vous êtes pas aussi bon que Leonardo DiCaprio, mais vous êtes pas à chier.
Quoi?
Mais c'est vrai, vous êtes pas Gene Hackman ou le mec qui a joué dans Napoléon Dynamite, mais vous êtes bien.
Je ne suis rien! Je ne suis qu'un ringard aux yeux du prophète.
Hey, monsieur, je m'excuse, je voulais pas dire ça.
Allez-vous-en.
Mais monsieur, c'est ma chambre.
Allez-vous-en, je vous dis.
Papa, Tom Cruise, il veut pas sortir du placard.
Eh oui, Tom Cruise ne veut pas sortir du placard. Donc effectivement, on l'a entendu dans South Park... On s'attaque à tous, à tout le monde. On a beaucoup parlé de Cartman, mais aussi Stan peut aussi être vecteur d'humour. Et ma question suivante, c'est quel est votre personnage préféré, Tanguy?
Alors, pour la blague, juste personnellement, je suis diabétique. Et donc du coup, beaucoup d'amis s'amusent à imiter Scott Malkinson quand je suis pas très loin. Ou plutôt Cartman qui imite Scott Malkinson à base de «
C'est Scott Malkinson, les uns se voient sur la langue !»
Et autrement...
Les adultes sont cruels aussi.
Ah, malheureusement. Et autrement, ça a été hyper difficile pour moi de répondre à la question, parce qu'en fait, ça dépend des épisodes. Vu que, surtout aujourd'hui, les personnages principaux changent au fil des épisodes, notamment, je pense, depuis l'épisode spécial de Butters, épisode horrible d'ailleurs et très cruel. Et donc, si lui c'est le personnage central, en fait, l'épisode, et mon point de vue, prendra une toute autre forme que si c'était Cartman. Et donc, du coup, en changeant un peu les personnages, bah, ça change ce que je ressens pour la série et ce que je pense au fond de moi finalement de la série.
En donc, fonction de l'épisode, c'est le personnage.
C'est ça. Après, voilà, l'ambivalence Cartman Butter, c'est quand même souvent le highlight de beaucoup d'épisodes, le temps fort de beaucoup d'épisodes de South Park. Mais voilà, ça a été quand même très très compliqué pour moi de répondre à cette question.
Bruno Roca.
Bah, je vais dire un truc super banal, mais c'est vrai que Cartman, bon, voilà, si on prend sur la globalité de la série, beaucoup de personnages que j'aime bien, mais c'est vrai que Cartman, c'est, en général, c'est celui qui a les, à mon sens en tout cas, les plus belles punchlines, c'est celui qui est le plus outrancier. Quand on se dit il ira pas plus loin, bah, la semaine d'après, il va encore plus loin. D'ailleurs, c'est étonnant de remarquer ce qu'on parlait du film, que le film arrive très tôt après le début de la série, il arrive 2 ans après, et quand on regarde l'affiche, c'est vraiment Cartman qu'on voit, c'est vraiment la star, quoi. C'est un peu le Bart Simpson, ou le Homer Simpson, selon les peurs des Simpsons de South Park. Ouais, non, Cartman, clairement, c'est lui qui me fait le plus rire.
Alors moi aussi évidemment Cartman. Après c'est vrai que là c'est pas aussi, il est emblématique, mais c'est vrai que la comparaison du coup avec Homer ou Bart est différente dans le sens où Cartman est l'incarnation du mal absolu, c'est-à-dire que on adore les méchants et Cartman a toutes les qualités du méchant optimisées, c'est-à-dire que il tape sur toutes les communautés possibles et il est drôle en plus. Et il peut se permettre ça, donc du coup il y a une sympathie. C'est le Dark Vador en fait de l'animation, et on est obligé d'être avec lui quelque part. Donc il y a cette sympathie de l'antipathie qui fait que on devient fan de cette personne. C'est un peu toute proportion gardée. Quand vous prenez Jean-Marie Le Pen, même quand on est étranger, on est là. Non mais il est marrant parce que du coup il va tellement loin. Évidemment que on ne veut pas qu'il arrive au pouvoir, mais qu'il soit juste dans le paysage, on est là, non mais on l'aime bien, il fait des vannes. Et donc du coup, cette force-là, elle est quand même
incroyable.
Et là, c'est
incroyable. Vraiment quelqu'un qui va pas recevoir les mails qui parle. Vraiment quelqu'un, vraiment le mais mec qui le fait détendu autour d'une table comme ça, il sait pas. Moi, mon personnage préféré, je dois avouer que je pense que c'est Kyle.
Kyle ?
Oui, parce que je trouve qu'il a ce côté un pied dans le réel et un pied dans la satire qui est en permanence. Et je me dis, il est vraiment à la croisée des chemins avec cette famille très, très, très religieuse, très conventionnelle, très orthodoxe. Et en même temps, c'est un petit garçon qui vit dans le ici et le maintenant et qui se prend plein de vannes horribles de Cartman. Et donc, je trouve qu'en fait, il y a un épisode où il y a un nouveau proviseur qui est arrivé, le proviseur politiquement correct.
Le PPC.
Le PC. Et qui, en fait, lui le punit parce qu'il a eu le malheur de dire que, selon lui, c'était Jenner.
Caitlyn Jenner.
Caitlyn Jenner n'était pas une héroïne.
Oui.
Et Caitlyn Jenner, qui auparavant était connue sous le nom du sportif Kyle Jenner.
Mm-hmm. Bruce Jenner.
Voilà, Bruce Jenner. Et en fait, il y a tout le monde qui lui tombe dessus en disant oh, tu ne trouves pas que Caitlyn est une femme formidable, etc. etc. Et en fait, les parents le martyrisent tout l'épisode parce que il a pas été politiquement correct en disant qu'elle c'était une femme formidable. Il dit non, mais c'est pas le fait qu'elle ait changé de sexe qui me gêne, c'est juste que je crois pas que ce soit quelqu'un de vraiment si admirable que ça. Et en fait, oh, c'est horrible. Et je trouve que vraiment il incarne ça, c'est-à-dire toujours ce rapport au réel et cette ambiguïté que j'aime beaucoup.
Et je crois d'ailleurs que ça doit être le seul épisode de South Park où il commence une morale à la fin, où Kyle arrive pour donner sa morale finalement sur Caitlyn Jenner et ce qu'il pense, et qu'en fait il arrive jamais à trouver le bon terme et il s'en va en disant « Ouais, laissez tomber ».
Oui.
Et parce qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que chaque épisode se conclut par vous savez, je crois que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, et donc on donne une morale à l'épisode qui est pas souvent une morale non plus, mais qui quand même a une sorte de guide qui fait que on conclut sur quelque chose.
Et est-ce que le fait que justement cette série ait une grande liberté de ton vient pas du fait que ce soit justement des enfants, que tout soit vu à hauteur d'enfants, qu'il y ait cette distance qui leur permette d'analyser le monde des adultes? Parce qu'en fait, souvent les enfants sont ceux qui sont vecteurs de lucidité et de clairvoyance, mais les adultes sont des abrutis finis.
Ouais. Mais je pense que ça joue forcément parce qu'en plus du coup, par rapport à cette lucidité qu'on peut donner aux enfants, il y a aussi cette innocence qui fait qu'on leur pardonne facilement. Donc du coup, la liberté de ton et de possibilité.
Comme il est, parce qu'on se dit.
Exactement.
Parce que
lui, comme lui, c'est la némésis en fait. C'est l'incarnation de tout ce qu'il faut pas. Donc c'est encore autre chose. C'est pas un enfant, c'est un symbole. C'est un symbole du mal.
Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et il y a aussi autre chose. C'était un article qui s'appelait... C'était un texte, écrit par Paco Mitchellman, qui s'appelait Kao Reins, qui parlait justement de South Park et qui expliquait que utiliser des enfants dans une série d'animation, c'était le meilleur moyen, finalement, d'avoir une liberté de ton totale. Parce qu'un enfant... Donc ça lit et surtout ça crée des histoires, ça crée des contes. Et en fait, ce qui est génial dans South Park, c'est que finalement, on a à la fois le créateur et le réceptacle. On a le créateur, c'est Cartman. C'est lui qui souvent crée des discordes, s'imagine des choses. Il y a un épisode où il cherche une espèce de créature juive qui virait dans les bois, qui s'appelle le Chupacabra, par exemple. Il y a ça. Et il y a le réceptacle, c'est Butters, où dès qu'on lui dit quelque chose, il prend tout au pied de la lettre. D'ailleurs, Cartman est le seul à traverser le quatrième mur dans la série South Park. Et donc du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, avec un enfant, tout est possible grâce au pouvoir de l'imagination. Et c'est vraiment ce qui est disséminé. Et le point culminant, c'est le triple épisode d'Imagination Land ils ont été primés. Et ce qui est aussi génial avec ça, c'est sans non plus rentrer dans la pure théorie freudienne, entre le ça, le surmoi, etc. Un enfant, le surmoi est très, il a très peu de justice, il connaît pas vraiment ses limites, et donc le fait de ne pas avoir de limites, ça permet justement d'aller au bout des choses et vraiment d'aller jusqu'au bout de la caricature avec toujours un esprit de mauvais garçon, sans faire de jeu de mots du coup.
Je précise juste pour ceux qui ne sauraient pas que briser le quatrième mur, ça veut dire ne plus être dans la situation du moment et parler directement au spectateur.
Voilà, merci de précision.
Bah, on sait jamais.
Hein. Oui.
Bruno Roca.
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis sans pousser l'analyse si loin, même si je suis tout à fait d'accord avec ça, je reviens sur le postulat de départ, c'est de voir des enfants avec ces, parce que vraiment le visuel de la série est très important aussi, ce côté enfantin même visuellement qui nous renvoie, enfin ça renvoie à l'inconscient collectif à plein de programmes pour enfants plus ou moins réussis qu'on a tous vus.
Oui, Peppa Pig.
Voilà, exactement, et d'entendre des...
Enfin, pour la génération
actuelle.
Ouais. Nous on avait vu Petit Ours Brun avec
Chapi Chapeau,
exactement. Voir des telles insanités sortir comme ça de la bouche d'enfant, et en même temps on se dit ouais mais c'est des gosses, et je reviens sur ça effectivement Cartman, on se dit bon bah au bout d'un, quand il va grandir il va comprendre, il est dans la provocation, il est dans le... Donc je pense qu'aussi c'est un peu imparfait en se disant oui mais c'est des enfants, le même discours tenu par des adultes dans une série d'animation, ce serait même pas... Enfin c'est inconcevable quoi.
Et alors ce qui est assez intéressant justement en faisant le parallèle avec les Simpsons, c'est que les enfants, Lisa par exemple, aurait totalement sa place dans un épisode de South Park, dans son analyse du monde, voilà, un petit peu distanciée, et qui arrive à faire des morales aussi, des synthèses. Mais ce qui est intéressant dans les Simpsons, c'est de se rendre compte que ces enfants qui pouvaient peut-être avoir une sorte de dominance, de domination sur sur la série, ça s'est estompé au fur et à mesure par Homer, qui lui-même est devenu une sorte d'enfant presque plus immature que ses propres gosses.
Homer, en fait, il incarne... Il y a de très bons épisodes où on le voit revenir, en fait, sur certaines idées préconçues qu'il peut avoir, sur l'homosexualité, sur les immigrés, sur pas mal de choses. Il est vecteur de cette beaufrie un peu crasse. Sauf qu'Homer évolue, on sait qu'il n'est pas foncièrement méchant, il est juste bête. Et les circonstances font que bon bah il se rend compte que finalement effectivement tout n'est pas aussi simple, tout ce que dit la télé n'est pas forcément vrai, etc. Ça passe par Homer, alors que Bart effectivement était vraiment la star des premières saisons des Simpsons, ce côté sale gosse un petit peu irrévérencieux. Alors c'est sûr, comparé aux enfants de South Park, Bart fait gentil garçon, c'est vrai que ça passe par la figure d'Homer, mais Homer, on a l'impression que c'est quand même une sorte de grand enfant, oui. En fait.
Je les mets en parallèle parce que j'ai l'impression que ce que les deux séries valorisent, et c'est ce qui est un petit peu la star de ces deux séries, c'est la naïveté,
oui,
et la capacité de ne pas rester sur la même position du début à la fin, c'est-à-dire une naïveté qui est poreuse au contexte.
Et je trouve que c'est une belle leçon, si le mot est un peu pompeux, mais de ne pas clouer au pilori des personnes qui vont peut-être avoir un avis un peu préconçu, et puis finalement tout le monde peut évoluer. Quand on voit Homer sur certains sujets, enfin bon, il y a des épisodes où au début on se dit non mais c'est pas possible, dans la vraie vie entre guillemets on balance un truc comme ça, c'est fini, on est mis au banc mais il se rend compte de sa bêtise, et voilà, et puis il s'excuse, il fait un petit mea culpa, et puis il se rend compte, et puis il évolue, il est dans une démarche quand même de compréhension. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et ça, bon, à South Park, c'est vrai que c'est multiplié sur certains sujets par par un milliard, via Cartman, mais pas que. Mais oui, c'est vrai que c'est un point commun qu'on sait de série, ouais, effectivement.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus longuement de Trey Parker et Matt Stone. D'où viennent ces deux génies punk, canards, libertariens, comme eux-mêmes se définissent d'où ils viennent? Comment ils se sont rencontrés, Bruno Rocca?
C'est deux gars du Colorado, même si Stone, lui, est né au Texas à la base. Mais ils vont se rencontrer, en fait, à l'université Boulder, en fait, Colorado, parce qu'ils vont fréquenter un cours de cinéma, tous les deux. Et ça va être un coup de foudre artistique, humoristique, parce que ils sont très fans des Monty Python. Voilà, ils aiment l'humour absurde. Ils sont très jusqu'au boutistes dans leur façon de voir les choses. Les profils sont intéressants parce que en fait, Stone, c'est un adolescent, donc avant d'arriver dans cette université, qui est un petit peu timoré, qui est un petit peu replié sur lui-même, dans une école très stricte. Alors que Parker, c'est un peu le beau gosse, un peu star. Il fait rire tout le monde, mais il est très expansif. On l'entend beaucoup, il se la pète un peu, quoi. Faut dire ce qu'il est. Il est très aimé, il est populaire, etc.
Oui, c'est le charismatique du groupe. Après, juste pour nuancer, oui, quand tu dis le beau gosse, il faut vraiment, parce que les gens qui n'ont pas l'image, beau gosse, c'est quand même relatif. Hein,
bon. Enfin, en tout cas, il joue au beau gosse. Tu vois les photos de quand ils sont jeunes. Enfin, vraiment, il aime bien se la jouer. Ouais. Voilà. Ouais. Effectivement, c'est la beauté, c'est relatif. Je laisse les gens juger sur Google Images. Mais donc ils se rencontrent et puis donc ils fréquentent un cours de cinéma et tous les deux. Puis voilà, ils sont. C'est le coup de foudre. Ils commencent à faire des trucs ensemble. Ils fabriquent des courts métrages. Ils font plein de choses. Et ils sont hyper sérieux en fait. Le documentaire dont on parlait tout à l'heure, il disait mais nous, les gens s'imaginent qu'on passait notre temps à faire les fêtes d'université, à picoler, à faire. Et non, on bossait toute la nuit. C'est tout le temps. Je crois même que Parker, à un moment donné, va se faire virer quelques jours parce qu'il sèche des cours, pas pour aller s'amuser, parce qu'il bosse sur ses créas et tout ça. Et donc, voilà, petit à petit, ils vont commencer à faire des choses voilà, où leur esprit va vraiment rejaillir totalement.
Et alors, il y a cette passion pour les Monty Python,
oui,
mais il y a également une passion pour les comédies musicales. Mm.
Ça, c'est surtout Parker, en fait. Ouais, Parker, il est très comédie musicale. D'ailleurs, on entendait l'extrait tout à l'heure. Le film South Park, c'est une comédie musicale. Voilà. Et une très bonne comédie musicale, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, Blame Canada a été nommé aux Oscars.
Tout à fait. Ils sont,
pour la meilleure chanson originale.
Ils sont très, très bons là-dessus. Et lui, voilà, la musique a toujours eu un rôle important dans sa vie. Au lycée, il avait fait avec un copain une petite cassette qui parodie un peu les ballades amoureuses romantiques, dont un titre apparemment qui a fait parler à l'école dans son bahut, qui s'appelle « Je crache sur ton amour », voilà, qui était pour donner un peu l'esprit. Et
ce qui est drôle, c'est qu'il y a peu de temps, j'ai fait un blockbuster sur Aurel San, où justement un de ses premiers titres, c'était Saint-Valentin, qui était une parodie outrancière oui, où ils étaient tous les deux, mais avec un clip qui était fait avec Brick et Brock, où il disait énormément de mal évidemment des femmes,
oui, il y avait des textes
de l'amour, ouais, etc. Et j'ai retrouvé une sorte de concordance. Ouais,
ça aurait pu être dans sa part, voilà, tout à fait, cette chanson.
Oui, c'est ça, c'est déjà cette idée de provoquer chez l'auditeur en l'occurrence, et puis les spectateurs plus tard, une réaction vraiment viscérale, quoi, un truc violent auquel on s'attend pas, quoi. Et donc oui, Parker est très comédie musicale. On verra sur tout ce qu'ils vont faire, ça va suivre.
Et d'ailleurs, dans South Park, il y a énormément de chansons chantées par les personnages, parce que c'est souvent ça motive, ça fait avancer l'intrigue. Mm-hmm. Et il y a une des voix les plus connues, alors qu'il n'a pas fait la totalité des saisons, on va expliquer pourquoi, mais évidemment Isaac Hayes, Shaft,
chanteur de Shaft,
et qui incarnait le chef dans South Park, qu'on écoute tout de suite.
Say everybody have seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Unsweetened chocolate and a half a cup of brandy, then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Grease up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick.
seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness, high in fiber.
Et là, je remercie des années et des années d'apprentissage de l'éducation nationale dans la maîtrise des langues et qui a fait que nous sommes très mauvais. Et donc, je peux passer cette chanson sans avoir de problème. Parce que sinon, si jamais elle avait été en français, oh là là!
C'est dommage qu'on n'ait pas eu les traductions du coup, mais c'est
non,
vrai
non,
que c'est
non, 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 bah, non, ça, cool. Voilà, je vous amène, je vous invite à faire des progrès, puis vous réécoutez cette chanson.
Après, voilà, ça vient traduire quelque chose aussi. C'est, il peut y avoir des sujets triviaux qui, quand c'est bien produit, bien écrit et bien composé, font que le message passe d'autant plus, vu que c'est sautillant et que c'est agréable à écouter. Donc ça, c'est une force aussi qu'ils ont là-dessus.
Oui, oui. Et alors, Isaac Hayes, qui au bout d'un moment s'est fâché avec Trey Parker et Matt Stone, parce que...
Des raisons nulles.
Bah oui, mais parce qu'en fait, il était un peu scientologue, et en fait, il était vraiment...
On peut être un peu scientologue ?
Bah un peu, c'est-à-dire scientologue, que tu l'es, mais tu es musulman. C'est un peu comme Will Smith, tu vois, il est un peu scientologue à un moment donné.
Okay.
Tu vois, tu l'es, mais tu le dis pas trop. Puis en fait, quand les gens commencent à vraiment beaucoup attaquer cette secte, bah forcément...
Tu dis, bah je suis beaucoup scientologue.
Ouais, en fait, je suis beaucoup, là, je commence à être vraiment gêné, et surtout, quand je vais à l'église et tout ça, on me dit, faudrait que t'arrêtes.
C'est dommage, en plus, parce qu'il y a une réflexion que je trouve peu cohérente, il a dit quand il a arrêté, il a dit voilà, il y a une place pour la satire, mais je pense qu'à un moment il faut arrêter quand ça devient de l'intolérance. Et on est là, on dit oh, enfin Isaac, enfin.
Oui, Isaac. Enfin, quand même.
Ils ont mis, en plus, c'était aussi le côté de South Park, ils en ont mis à tout le monde. Hein, oui. Ça tape dans le catholicisme, chez les juifs.
Tout le monde prend. Ouais.
Tout le monde prend. Donc, justement, s'il y a une égalité, à un moment, il faut savoir, savoir accepter
presque,
les coups.
C'était presque une sorte d'acceptation.
Bah, bien sûr, mais oui. Bien sûr.
Mais oui.
Sur la scientologie, pour l'anecdote aussi, ça a été un épisode qui a été très dangereux à produire et tourner. On parle beaucoup de l'épisode le 200 et 201e, où ils ont montré Mahomet en caricature dans un ourson, et que l'État islamique apparemment aurait envoyé un message un peu tendancieux à destination des créateurs de South Park, de Trey Parker et Matt Stone. Mais l'épisode sur la scientologie a aussi été très complexe à produire.
Ce que je trouve fascinant dans ces histoires de réaction à des caricatures d'une série telle que South Park, c'est que il y a quand même un moment donné où des membres de l'État islamique regardent un épisode de South Park.
Ça doit
et ça, vraiment, pour moi, là y a déjà, ils sont déjà battus.
Mais il doit y avoir un entre-deux incroyable quand t'es Trey Parker et Matt Stone, c'est t'es entre la peur et... Non mais quand même, ils ont regardé South Park.
Ils ont regardé South Park.
Ils ont regardé un truc à nous. C'est...
Et ils ont même nommé des guisants en ourson.
Ouais. Et du coup, sur la scientologie, donc l'épisode s'est piégé dans le placard. À la fin du générique, si vous allez jusqu'au bout du générique, vous apercevez que tous les noms sont des pseudos et ils s'appellent tous John Smith et Jane Smith pour cacher les noms des créateurs pour ne pas que les scientologues s'amusent à les attaquer. Et ça a pas loupé puisqu'ils avaient envoyé des espions espionner Trey Parker et Matt Stone, l'église de scientologie, pour voir s'ils avaient des choses à cacher pour pouvoir les révéler au monde. Et il y avait rien. Et donc du coup, ils se sont retrouvés chou blanc. Voilà. Donc South Park, c'est un peu dangereux. Pour Trey Parker et Matt Stone.
Mais en même temps, ça les a jamais fait reculer sur quoi que ce soit.
Non, mais Comedy Central a quand même pas diffusé, je crois, les 200 et 200 sur le moment. En tout cas, je crois que sur le coup, ça avait été censuré de leur part.
Alors, je crois que c'est en France, c'était pas passé.
En France, c'est sûr.
Et du coup, il y a pas eu de doublage. C'est pour ça que l'épisode n'existe qu'en VostFR. Aux États-Unis. Je ne sais pas.
Si je dis pas de bêtises, je crois que ça avait été censuré par Comedy Central parce qu'ils ont dû se dire non, mais quand
après,
même.
Après, les problèmes de censure sont souvent venus d'autres pays. Il y a notamment le Parti communiste chinois qui a censuré l'épisode où Xi Jinping était grimé en Winnie l'ourson. parce que comme c'est comme ça que les.
Ça a été compliqué à accepter par le gouvernement chinois, ça, oui, j'imagine, oui.
Bah, South Park ne passe plus depuis.
C'est étonnant.
En Chine, et c'est. Oui, ça m'a laissé un peu sur. Fondement aussi.
On croit connaître les gens.
Après, c'est récurrent dans les sitcoms d'animation, c'est que South Park, les Simpsons et consorts, dans certains pays, proche de nous, hein, c'est limite, on a l'impression qu'il y a sur certains épisodes, il y a une version par pays presse, c'est des séries qui sont très cutées en fait. Hein, donc ça, c'est pas. C'est quelque chose de vraiment récurrent. Après, quand c'est des épisodes un peu moins connus ou sur des sujets qui vont moins faire la polémique, on s'en rend moins compte. Mais voilà, comme la génération Club Dorothée ou notre Dragon Ball Z était cuté à tour de bras, ça arrive aussi sur ce genre de série. Hein.
Mais d'ailleurs, sur l'épisode de la Scientologie, Tom Cruise a essayé de faire interdire l'épisode. Oui. Il a fait des pressions pour que ça ne se fasse pas. Oui, bah, mais ça s'est fait quand
mais,
même.
Bah oui, mais c'est l'effet Barbara Streisand.
Tout à fait.
C'est-à-dire que quand on veut faire interdire quelque chose, souvent, bah, il y a encore plus de gens
qui veulent le voir.
Et moi, le premier.
Ah bah oui.
Et Barbara Streisand, c'est encore plus opportun pour South Park, du coup.
Mais n'est-ce pas? Tout est pensé. Et alors, on a parlé de comédie musicale. Il y a notamment ce premier projet sur lequel Parker et Stone travaillent, qui est Alfred Packer the Musical, qui devient ensuite Cannibal the Musical. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Bruno Roca?
Oui, alors c'est là, on a tout l'esprit hein, des deux gars. J'ai envie de dire, c'est que ça se base sur une histoire très connue aux États-Unis, donc sur ce fameux Alfred Packer. C'était en 1873, suite à une expédition dans les montagnes rocheuses du Colorado qui a mal tourné.
c'est
mis à grignoter ses petits camarades, voilà, pour survivre.
On fait rarement ça quand ça se passe bien.
Voilà, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, bah, ils ont fait une fausse bande-annonce au début sur ce fait tragique. Et ça a tellement plu à leurs profs à l'université où ils étaient qu'ils les a incités à en faire un film, en fait. Et donc, en empruntant un peu d'argent, même aux copains, la famille, etc., ils arrivent à avoir un petit budget de $125,000. Ils tournent cette comédie musicale où il y a des chansons vraiment, vraiment fabuleuses déjà. Et ils essayent de le présenter à Sundance. Bon, il est retoqué à l'entrée. Mais le film a sa réputation, quoi.
Il faut bien préciser que c'est une époque où quand on parle de viralité, on n'est pas du tout dans le buzz internet, c'est-à-dire non. Avec des fichiers streaming. Là, on parle de VHS qui se copie,
voilà.
Passe sous
le manteau.
Là, on est en 93,
à ce moment-là. On est vraiment dans ce truc-là. Puis on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils sont coutumiers de ce côté. On se passe la cassette, ça fait un buzz. Puis ils seront à l'origine, voilà, on verra plus tard, de la première vidéo virale sur internet limite, donc voilà. Mais donc ça fonctionne bien et ça va taper dans l'œil aussi à quelqu'un de très connu dans le monde de la comédie, qui est David Zucker
du trio Zaz.
Voilà, du trio Zaz.
Qui, alors, lui, pour ceux qui ne connaissent pas le trio Zaz, c'est
Il y a un pilote dans la vie.
Voilà, il y a un pilote.
Hotshot.
Exactement. Voilà, que des chefs-d'œuvre.
Des classiques, hein. Vraiment des grands classiques du film parodique.
Complètement.
Et donc il voit ça et puis il adore.
Je crois qu'avant de taper justement dans l'œil de Zucker, il y a déjà eu Lloyd Kaufman qui est arrivé, qui est le patron de Trauma.
Trauma,
pour ceux qui ne savent pas justement, il y a une totale cohérence avec le fait que Lloyd ait voulu prendre ce film, parce que c'est une production punk totale, qui font des films justement dans cet esprit-là.
Oui, Toxic Avenger.
Entre autres, Poultrygeist, Roméo et Juliette, il y en a plein, qui s'apparentent à des films d'horreur qui peuvent être assez régressifs et scato aussi par moment. Donc il y a une cohérence totale que Lloyd Kaufman veut récupérer le bébé. Et le premier biais s'est fait par ça, et ça a permis justement à ce que le film atteigne un certain public, grand public total, mais qui a totalement assis leur réputation par rapport à ça. Et après.
Oui, excuse-moi, non, je...
Non, vas-y.
Et c'est via Trauma que le film est renommé, d'ailleurs. Ce sera Cannibal, The Musical, qui pète un peu...
Oui, parce qu'au départ, c'était Alfred Packer. Oui, alors, pour les auditeurs, personne n'est dyslexique. Hein. On sait dire Alfred, mais c'est vraiment Alfred.
Ouais. Oui.
Ils l'ont renommé parce que Lloyd Kaufman pensait que personne, aux États-Unis même, ne connaîtrait Alfred Packer, parce que c'est vraiment une histoire du Colorado.
Oui, c'est vraiment local, quoi.
C'est Colorado et Utah, parce que du coup, il y a des mormons issus de l'État d'Utah dans le film.
Et en vrai, Cannibal, The Musical, c'est un très bon titre. Ça sonne mieux que Alfred Packer.
Ça pète bien.
Mais de toute façon, Cannibal partout, ça sonne bien.
Déjà, Cannibal Holocaust, c'est très bien aussi.
Ouais, Fine Young Cannibals.
Ouais, tout à fait.
Tout de suite, ça claque. Moi, je voulais m'appeler Frédéric Cannibals. Et puis,
mais appelle-toi Cannibal Sigrist.
Cannibal Sigrist.
Nouveau nom de scène, c'est vachement
désormais.
Cannibal Sigrist.
Cannibal Sigrist.
Mais moi, j'achète tous tes spectacles.
Ah, ok. Ouais. Cannibal Sigrist. Il va falloir changer les affiches.
Vite fait. Un peu d'infographie, ça, vite.
Et alors, il y a aussi cette histoire, ce personnage un peu polémique. Sur lequel plus tard on leur a demandé de revenir, Petit Caca Noël. J'aimerais qu'on parle de Petit Caca Noël.
Et oui, c'est alors en fait, on parlait de ce que faisait Parker et Stone. Ils font un premier, parce que c'est important d'en parler juste avant, c'est qu'ils font donc un premier court-métrage avec la technique donc de papier découpé, qui s'appelle American History, de mémoire, qui revient sur l'histoire des États-Unis, donc à leur manière, bien sûr. Ils vont enchaîner aussi après sur un petit conte de Noël, The Spirit of Christmas, où là, on a déjà...
Avec Jésus et voilà, Père Noël.
Et voilà, exactement.
Frosty, c'était, à la base, c'était le bonhomme de neige.
C'était le bonhomme, c'est pour ça qu'il sera... renommé après Jesus vs Frosty, parce qu'il va y avoir un deuxième Spirit of Christmas, et ce deuxième Spirit of Christmas va vraiment être un proto South Park, où vraiment ça se passe déjà à South Park, le design se rapproche vraiment du pilote qu'on aura après, et du coup ce deuxième court-métrage, ce proto South Park, c'est une commande en fait de la part d'un cadre dirigeant de la Fox qui s'appelle Brian Graden, qui leur demande une petite carte postale vidéo de Noël pour ses amis. Ça, c'est Noël 95. Donc eux, ça leur fait $2000, et à l'époque ils avaient un peu du mal à joindre les deux bouts, parce qu'il faut savoir qu'après la comédie musicale sur Alfred Packer, ça y est, ils sont chauds, ils partent à Los Angeles, ils croient à leur avenir. Voilà,
Les studios d'animation ont tendance à ne plus investir.
Ouais, et vraiment, ils vont vivre des très 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 longs mois de galère à dormir à même le sol, à même le linge sale, même dans une petite piole et tout. Et donc, là, ça leur fait $2000, parce qu'ils commencent, avec les rendez-vous, ce qu'ils font, ils commencent à avoir une petite réputation malgré tout. Et donc, ils font ce nouveau Spirit of Christmas. Donc, c'est vraiment un proto-South Park. On trouve les enfants, on trouve Jésus, etc. Et donc, comme tu le disais, on est au tout début, au balbutiement d'Internet. C'est surtout la VHS qui tourne, parce que la vidéo fait un malheur. Et donc, elle va être numérisée, et ça va être l'une des premières vidéos virales, en fait, sur Internet, que les gens vont vraiment se partager, vont s'envoyer par mail l'adresse, etc., ou le fichier vidéo, sur une toute petite fenêtre hyper pixelisée, mais vraiment, le truc fait un carton, quoi. Et c'est comme ça qu'après, ce cadre de la Fox se dit, là, il y a un truc à faire, on va faire une série, quoi. Surtout que la Fox, historiquement, les Simpsons et consorts. Mais il y a le petit personnage, il y a Monsieur Hankey, le petit caca Noël, qui pose problème. Et donc la condition pour la Fox, c'est « Ok, on fait la série, mais vous nous retirez le petit caca Noël ». Et donc évidemment, quand on connaît Parker et Stone, c'est pas la peine, c'est pas négociable. Et du coup, ça se fera pas avec la Fox.
Mais souvent, c'est difficile de définir la beauté ou la singularité d'un artiste. Et pour moi, c'est ça, c'est deux adultes qui se battent devant des exécutifs avec des costards cravates en disant non, petit caca Noël, c'est nous. c'est important. Et si vous ne prenez pas petit caca Noël, on s'en va. Et ils sont partis.
Et surtout la Fox, quoi, parce que c'est une grande maison. Oui, c'est la maison des Simpsons et consorts. Là, ils peuvent se dire, surtout après des années de galère, ils peuvent se dire ça y est, on est tranquille, en tout cas, on va le tenter. L'exposition que ça peut créer, l'international, etc. Et non, ils disent on garde notre petit caca Noël, et vraiment, ils claquent la porte, quoi.
Mais c'est pas un détail trivial en plus, parce que ce souci de quelque part rébellion assumée et d'intégrité artistique, ils l'ont toujours eu, même quand finalement Comedy Central donc accepte le projet. Le pilote a un bon retentissement, mais ils hésitent à faire un deuxième épisode, en tout cas à le produire. Finalement, ils le font. Et au bout d'un moment, au bout du deuxième ou du troisième, quoi, je ne dis pas de bêtises, ils disent « Ok, maintenant, on reste avec vous si on signe pour 6 épisodes minimum, sinon, on s'en va. » Donc déjà, c'est vouloir imposer quelque chose. Et je pense que c'est cette force d'envie et de liberté.
Parce qu'il faut le répéter, ils ne sont que deux.
Ils sont que deux. Et surtout, ils sont encore personne malgré tout. Donc avoir quelque part cette assise-là, et cette volonté de dire « on ne fera aucun compromis », je pense que c'est ce qui a joué aussi en leur faveur et qui leur a permis de rester aussi fort dans ce qu'ils veulent aborder au fil du temps. Et je fais une digression, mais qui est cohérente. Tu parlais de petit caca Noël, donc en anglais c'est Mr. Hankey, The Christmas Poo, et je pense qu'il faut aussi parler du travail d'adaptation de William Corrin.
Ça va, voilà. On va y arriver.
Mais c'est aussi une force qui fait que je pense qu'il y a eu un retentissement tel un peu partout, mais encore plus en France.
Oui.
Mais tout ceci, du coup, pour rebondir, ça prouve bien la garantie totale de liberté qu'ont voulu Trey Parker et Maston depuis le début, même s'ils n'étaient personne, et c'est allé jusqu'à taper même leur propre compère, les personnes qui les ont amenés là où ils sont aujourd'hui. Il y a un épisode des années plus tard qui a été fait, je ne sais pas si vous en souvenez, qui s'appelle La machine à rigoler, où c'est une espèce de machine qui fait des blagues hyper drôles, qui a été créée par les Allemands parce qu'ils ont été désignés par Jimmy, peuple le moins drôle du monde.
C'est pas complètement faux.
Et en fait, ils font une blague à l'intérieur, mais des années après, c'est vraiment, je pense, 20 ans après, sur Brian Graddon, où ils disent à demi-mot que c'est un sodomite, parce que c'était quelques années avant, il avait été élu l'une des 10 personnalités gays les plus influentes. Et c'est la personne qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Ils disent 20 ans après, oui, bah, il aime bien s'en prendre où vous savez quoi. Donc c'est vraiment, la blague sort de nulle part. Et je vous dis ça, j'ai revu l'épisode hier et ça m'a, c'était une déflagration.
Ah oui, eux, ils sont vraiment pas au-dessus de, on va régler nos comptes.
Il y a pas de compte. L'ardoise est vide, mais on va la créer nous-mêmes.
C'est gratuit. C'est juste, on le fait parce que c'est juste gratuit.
Ah oui.
Non, il y a de ça. Et alors, c'est vrai que cette liberté de ton, alors, on parle de South Park depuis le début de l'émission. Donc on a pu l'entendre, on a pu la voir si on connaît la série, mais même au cinéma, il y a eu le film South Park, mais il y a aussi eu ce film fait avec des marionnettes, Team America, avec ses marionnettes, et qui était un hommage aux Sentinelles de l'air, les Thunderbirds, où les États-Unis sont la police du monde, toute ressemblance une fois de plus, et donc se battent contre des terroristes un peu partout sur la planète en détruisant absolument tout. À chaque fois, ils sont bêtes, méchants, libidineux, voilà. Et puis il y a presque une version qui dépasse la réalité du père de Kim Jong-il, voilà, qui grand amateur de cinéma, qu'on voit en marionnette comme ça avec des batailles homériques, et on écoute Team America.
Ah.
Voilà. Mais un film, on en parlait pendant le morceau, qui ne nous a pas laissé indifférents, Dedo.
Bah non, moi je l'avais découvert en salle et c'est vrai que c'est tellement drôle, déjà de base, de voir des marionnettes à l'écran interagir.
Ah, puis vraiment, elles interagissent.
Qui est fabuleuse, vraiment. Si vous avez envie de voir quelque chose qui va vous marquer pendant longtemps, il faut voir ce film pour au moins voir cette scène de sexe entre deux personnages qui est très particulière, qui est très large dans les détails. Et il y a cette scène incroyable aussi, qu'on évoquait hors antenne, d'un personnage qui vomit à un moment. Donc on voit déjà, il n'y a rien de plus drôle au monde de voir une marionnette avec une sorte de jet de vomi continu, très bien effectué, qui dure très 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 longtemps. Et je disais justement, à un moment, ça s'arrête pendant 3-4 secondes et ça repart aussi fort. C'est à mourir de rire et c'est aussi quelque chose qui est typique de la comédie, cette maîtrise du rythme, cette maîtrise des codes qui vont vous surprendre et qui est vraiment maîtrisé à la perfection pour le coup. Et il y a même des moments très drôles où on voit, c'est tout un film en marionnette et d'un coup on voit des chats débouler sans divulguer la scène. Enfin, tout est parfait, quoi. Tout est parfait de comédie.
Moi, c'est vraiment ce que je préfère de Parker et Stone. J'aime énormément South Park, mais je crois que la plus grosse claque, c'est ce film, en fait, que j'ai eu de part des deux créateurs. Et il y avait vraiment dans la salle, j'ai eu la chance de le voir en salle, et vraiment j'ai pris j'ai pris un pied énorme. Et c'est là qu'on voyait, il y avait vraiment une scission, enfin moi dans la salle où ou j'ai dessiné une salle parisienne, je me souviens plus laquelle, où vraiment on a l'impression qu'il y avait la moitié de salle qui était un peu, ils savaient pas trop où ils avaient mis les pieds, et ceux qui étaient à fond dedans, et là je me suis dit ça va pas être facile. Et c'est vrai qu'en France, moi j'ai du mal à trouver forcément des, je dirais dans le public un peu mainstream, des fans de ce film-là. Parce qu'il faut vraiment rentrer dans le délire. Ah bon, extraordinaire. Après, mondialement, il a bien fonctionné. Hein. Je sais qu'il a fait un bon chiffre tout. Mais moi, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de plus drôle. Le message,
c'est extrêmement bien réalisé, en plus.
C'est très bien réalisé. Et puis, il y a des. Je repense à une scène en particulier où, à un moment, il y a un des personnages qui doit, entre guillemets, changer de visage pour pouvoir correspondre à un intégriste islamique. Et donc, il y a toute une scène un peu à la face-off, volte-face pour ceux qui connaissent, où on se dit, voilà, on voit des trucs en 3D. On se dit, bon, il va y avoir une opération incroyable. Et ça cut. Et on voit le personnage à peu près avec exactement la même tête et des bouts de barbe très mal mis à différents endroits, et vraiment personne ne reconnaît. C'est parfait. C'est parfait.
Dans la ville du Derkaderkastan.
Exactement.
Je pense que c'est un beau film post 11 septembre. Vraiment. De toute façon, il s'inscrit, il a été fait aussi voilà, avec ça à l'esprit. Et c'est à mourir de rire. Et là, on parlait des personnalités brocardées. Donc effectivement, on a plusieurs têtes connues qui prennent très très cher. Et voilà, moi j'ai une pensée pour ce pauvre Matt Damon aussi qui prend très cher dans ce film, qui
s'exprime uniquement en Matt Damon.
Ouais, tout le monde prend pour
Sean
son
Penn
grade.
Prend cher aussi. Hein. Sean Penn, justement.
Ah oui.
Oui, ils avaient vu juste sur Sean Penn, bien plus tôt que les autres.
Ouais, bien sûr. Oui, George Clooney aussi.
Ils sont membres de la Federal Actors Guild, et en français, la Guilde des acteurs Yankees. Vous trouverez l'acronyme par vous-même sur ce que ça représente.
Et donc, on a cette exposition de Michael Moore qui est. Spectaculaire.
Tanguy Bosselli ?
Oui, moi c'est un film que j'adore, que j'ai vu ce que je disais en début d'émission, avant de vraiment découvrir South Park en profondeur. C'est un film que je trouve vraiment hilarant. C'est l'un des films les plus fous post 11 septembre sur l'interventionnisme américain. Et en plus de ça, c'est vraiment vous avez déjà presque tout dit. C'est un film qui n'épargne rien, qui égratigne tout le monde, les Américains. Je pense que c'est pareil en VO, mais en VF, du coup, le doubleur de Kim Jong-il, c'est Christophe Lemoine, donc celui qui fait la voix de Cartman. Oui. Donc on se retrouve avec les mêmes exigences psychopathes et manipulatrices que Eric Cartman dans la série South Park. Et c'est ce qui fait que moi je trouve que c'est un film absolument génial. Il y a une scène de comédie musicale comme d'habitude. Là on a entendu juste avant, il y avait la musique derrière Freedom Isn't Free Anymore. C'est déjà dévoilé le niveau d'absurdité.
Je traduis pour ceux qui n'auraient pas compris la chanson du chef en début d'émission, c'est la liberté n'est pas libre. N'est plus libre.
Et donc du coup voilà, moi c'est un film que j'adore, que je trouve très très drôle, et surtout qu'on peut revoir plein de fois quoi. Il y a toujours une blague, soit qu'on n'a pas remarqué, soit qu'on a oublié. Ça c'est très très fort.
Et alors pour revenir à South Park, on a parlé de la conception, de ses premiers épisodes, de ce bras de fer qui s'est opéré entre Stone et Parker et Comedy Central. Mais comment a été reçue la série par le public et aussi par la critique, à la fois aux États-Unis et en France? Plein de questions, beaucoup de questions. Allez hop, on est comme ça. Bruno Roca.
Alors, j'ai plus les chiffres en tête là, mais ça a été un carton sur Comedy Central. C'était la série qui faisait parler d'elle. On reparlait tout à l'heure, ils ont fait vraiment une campagne de promo énorme dessus, sur voilà, la série animée sulfureuse, etc. Et en regardant ça un petit peu de plus haut, moi j'ai vécu ça comme la. Et je pense que toute l'industrie, c'était enfin le premier adversaire, en fait, premier challenger crédible aux Simpsons, en fait.
Simpson, oui.
Voilà. C'est le premier. Et d'ailleurs, la rivalité, elle a été là tout de suite. Je me souviens où je bossais à l'époque, il y avait des débats. South Park, Simpson, enfin, on parlait de ça partout. C'était vraiment le premier, après plusieurs essais pour concurrencer en vain les Simpsons. Là, on avait vraiment un vrai challenger. Et là, en quelques épisodes, la série avait marqué déjà son époque. On pouvait pas imaginer qu'elle serait aussi aussi pérenne, mais ouais ça a été un carton aux États-Unis. Quand c'est arrivé en France, ça a fait beaucoup parler. Alors déjà il y avait des courriers de lecteurs de mamans mécontentes quand les Simpsons sont arrivés à la fin des années 80. Alors à South Park c'était le courrier des lecteurs dans les programmes télé, c'était assez rigolo à lire. Il y avait des trucs un peu collecteurs de réactions de parents. Ouais non, ça a très très bien marché tout de suite. Enfin, il n'y a pas eu aucune ambiguïté là-dessus.
Il faut dire aussi que la première saison de South Park commençait toujours avec un addendum de Trey Parker et Matt Stone qui répondaient. Alors au début ils présentaient les épisodes et après c'était Trey Parker et Matt Stone dans un chalet qui répondaient à des questions. Je ne sais pas d'où provenaient ces questions notamment, et en fait chaque couple présenté trois faux raccords en même temps. Le chien changeait, ils avaient un chien à côté d'eux, le chien changeait de couleur. Parfois, ils avaient une peau de bête, il n'y en avait plus. Et ils faisaient exprès. Et ils répondaient à des questions. Et on apercevait déjà toute la gratuité de la série. Il y a une question, par exemple, je m'en souviens parce que c'est vraiment, ça m'avait marqué. Quelqu'un lui dit Kenny meurt à chaque épisode, pourquoi vous ne le laissez pas en vie? Et la réponse, elle est simple, parce qu'il est trop pauvre. c'est que ça. Et du coup, en fait, c'est très vite expliqué avant même de commencer la série, avant même le carton, le synthé d'entrée qui dit est toujours là aujourd'hui, ce que vous allez voir ne devrait pas être vu par tout le monde, et vous allez voir des imitations entre parenthèses pitoyables pendant le show. Même avant ça, il y avait ce jeu de questions-réponses qui déjà donnait le ton de tout ce qu'allait être les 24 saisons suivantes de South Park.
Et alors, on a parlé de son arrivée en France, et on a aussi évoqué le doublage français. Il y a eu un travail monstre, parce que c'est une série qui a pour toile de fond la société américaine, avec énormément de références américaines. Mais le travail de doublage et de traduction, d'adaptation, ouais, a été phénoménal. D'abord sur Canal+, Dedo, tu peux en parler ?
Oui, en fait, William Corrine, donc depuis le début, s'est occupé de l'adaptation, de la traduction de la série, et je pense que justement, c'est ce qui fait la force de la série, en tout cas en France, c'est que c'est toujours assez compliqué de traduire de la comédie, parce que justement il y a une musicalité qui fait que, et un rythme qui fait que si on n'a pas vraiment cet outil bien en main, on peut perdre les effets et tout ce qui peut rendre le concept et les dialogues très marrants. Et là, pour le coup, à chaque fois, c'est pertinent, c'est bien traduit, ça garde totalement l'esprit. Et donc, du coup, je comprends totalement qu'on puisse tomber amoureuse, si on est une fille ou comme moi, non-genrée, parce que j'ai dit amoureuse pour aucune raison, qu'on puisse totalement adhérer à ce qu'est ce doublage. Et en plus, la force, une des forces des doubleurs est quand même Christophe Lewan, qui incarne donc la voix de Cartman, qui fait un boulot merveilleux pour le coup, parce que je me demande si c'est pas presque plus fort que l'original pour la plupart des gens qui ont regardé la série. Donc ça fait que du coup, en plus, on a vraiment une saveur particulière qui fait qu'on peut adhérer totalement à tout ça, parce que c'est aussi drôle pour le coup, au moins aussi drôle que l'original. Et ça, c'est pas souvent que ça arrive.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, justement, quand tu nous demandais tout à l'heure notre personnage préféré, moi, le travail de Christophe Lemoine pèse vraiment beaucoup. Sa voix extraordinaire, pour moi, c'est l'équivalent de Philippe Potieu de chez les Simpsons. Ouais. La voix d'Homer, elle est extraordinaire. Mm-hmm. On a des comédiens en France. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, de la chance qu'on a. La qualité de l'adaptation en amont et le travail des comédiens sur les voix, c'est extraordinaire.
Mais même sur des séries qui sont des héritiers plus ou moins officiels de South Park ou des Simpsons, mais Gumball, la VF de Gumball est incroyable. Il y a une série dernièrement, Cuphead, sur Netflix, qui a été faite aussi avec une VF incroyable. C'est une singularité française d'avoir des doubleurs, et particulièrement pour l'animation. Hein. Je ne parle pas forcément de films, je parle pour l'animation, d'avoir des gens qui comprennent l'esprit et qui arrivent à apporter une couleur française, mais qui s'adaptent totalement. Et c'était la même chose dans des séries telles qu'Amical Mon Vôtre, Starsky & Hutch, où au bout d'un moment, quand tu réécoutes la VO, tu te dis c'est marrant, ça a l'air moins drôle, moins stylé que quand c'était fait, parce que les doubleurs arrivaient aussi avec un bagage culturel. Ouais.
Et un bagage de comédie, parce que quand tu parlais d'Amical Mon Vôtre ou Starsky & Hutch, c'était Francis Lax et Jacques Balutin, et ils venaient du théâtre et du boulevard aussi. Donc effectivement, cette couleur-là, il faut la comprendre, il faut pouvoir la retraduire derrière, et la comédie, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc si on ne comprend pas ces mécanismes-là, le truc va être moins marrant. Si c'est moins marrant, ça fonctionne plus. Donc ouais, t'as raison de mettre en avant tout ça et de dire à quel point justement ce doublage est fabuleux.
Tanguy Bosselli.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On pourra même citer Rick et Morty dont la fidélité de la traduction est quand même assez dingue. Mais en fait, surtout pour South Park, ce qui est assez génial, donc déjà c'est une série d'animation, donc c'est plus facile, je pense, de mettre une voix sur un personnage d'animation que sur un acteur dans un film live réel, avec des acteurs réels en tout cas. Et en plus de ça, South Park a quelque chose d'assez, je pense, c'est un peu du pain béni aussi pour les traducteurs, c'est que la synchronisation labiale, donc le fait de coller une voix précisément sur les lèvres des personnages, est plutôt simple à faire, puisque vraiment les mouvements des bouches des personnages sont assez rudimentaires.
Oui, donc
ça permet de placer laisser à certains endroits des choses que l'on peut mettre, des références françaises notamment, qui peuvent s'intégrer parfaitement à l'univers de South Park. Et c'est ce pourquoi William Corinne a fait un travail aussi exemplaire, c'est que vraiment toutes les références, il a réussi à tout faire sans jamais trahir le texte de Trey Parker et Matt Stone, mais vraiment en le digérant pour le public français, il l'a vraiment très bien fait.
Et initialement, des stars d'Hollywood comme George Clooney et tout ça ont aussi été vecteurs du succès de South Park, parce que lui-même a été, il a même participé aux premières saisons, il jouait le rôle d'un chien. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on l'a vu, la série a toujours été très très dure avec le milieu des stars, avec voilà les politiciens, avec ce côté. Même eux, quand ils sont allés aux Oscars, ils y sont allés en robe sous LSD, oui. Tellement pour eux, ces récompenses ne représentent rien. Et pourtant, Hollywood les plébiscite, alors qu'en fait, ils ne cessent de cracher sur Hollywood. Et ça m'a fait penser à la cérémonie des Oscars, ce rendez-vous qu'on a tous les ans. Où pendant 10 minutes, les stars payées des millions acceptent d'en s'en prendre plein la tronche par le maître de cérémonie jusqu'à
Will Smith.
Jusqu'à Will Smith. mais est-ce que c'est pas un petit peu, ça fait partie du contrat des stars hollywoodiennes de se dire il faut que vous acceptiez d'avoir cette soupape de sécurité, de sécurité, ce bouffon du roi qui va vraiment vous dire vos quatre vérités.
Dans l'absolu, je pense que si on a suffisamment de recul et d'intelligence, on peut se dire que avoir du second degré rend ta personne très sympathique. Donc, il n'y a pas de mauvaise pub quand elle est justement maîtrisée à ce niveau-là. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Ça te rend sympa. Rire de soi, c'est quand même une composante d'intelligence et de possibilité de se dire, voilà, j'ai du recul et ça te rend sympathique. Donc, oui, évidemment qu'il faut le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Donc, je comprends qu'on puisse le faire. Je comprends moins que, justement, on se braque par rapport à certaines choses. Mais, quand on parle de Tom Cruise... Il y a des attaques plus personnelles quand on considère que ta religion, qui est une secte, est attaquée. Donc chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que le second degré, c'est primordial.
Alors, il y a de ça. Après, juste pour revenir sur George Clooney, vous disiez donc que George Clooney a fait une voix, effectivement, il a doublé Sparky le chien, c'est le chien de Stan dans la première saison, je crois, de South Park. Pour les auditeurs qui n'ont jamais vu South Park, ne vous attendez pas à ce que le chien parle comme un humain. Le chien fait juste waf waf. Donc George Clooney fait juste waf waf.
Mais il le fait vachement bien.
Il le fait très bien.
Il a accepté de se déplacer pour faire waf waf.
Oui, tout à fait. Et pour les Oscars, là où c'est encore plus drôle, c'est qu'ils étaient arrivés en robe de soirée sous LSD. C'est des robes qui appartenaient, je crois, à Gwyneth Paltrow, à une autre actrice de l'an dernier.
C'est ça.
Et quand on leur posait la question pourquoi vous êtes en robe, il répondait simplement c'est une soirée magnifique.
Mais toujours la même phrase.
Toujours la même phrase. C'est une soirée magnifique, beaucoup de paillettes, on est content d'être là. Et je pense qu'au-delà même d'avoir du second degré, de façonner l'image de la star en se disant finalement on peut m'attaquer, je suis plus fort que la caricature, je pense qu'il y a autre chose, c'est que certains ne disent rien parce que le public est roi, et surtout aux États-Unis, et vu que la série marche, on vaut mieux se taire et ne pas attaquer.
Évidemment, mais ça fait partie de la même composante quelque part.
Oui, oui, et d'ailleurs, pour en revenir au dernier fait divers, la fameuse claque de Will Smith, je pense que ce n'est pas la claque qui a véritablement été puni par l'Académie des Oscars, c'est plus le coup de canif dans le contrat tacite qui est passé entre les stars et les Oscars, parce que c'est la même, c'est les mêmes qui produisent les films qui sont partie prenante de la fabrication des Oscars, de dire écoute, on vous paie 20 millions de dollars par film, et si pendant 15 minutes on vous en met plein la tronche, vous souriez bêtement et vous restez assis, c'est tout ce qu'on vous demande, tu l'as pas fait, là on a un problème. Donc je pense que c'est plus ça qui a été puni pour Will Smith que le reste.
Ah oui, il suffit de voir Ricky Gervais il y a 2 ans au Golden Globe où il a pu dire tout ce qu'il voulait et qu'on voyait bien que ça riait très jaune, ou DiCaprio, ça avait pas l'air de beaucoup le faire rire qu'on attaque sa nouvelle compagne. Donc effectivement, ça c'est sûr que c'est de toute façon, après, une star à Hollywood, c'est un contrat malheureusement à vie. Ou jusqu'à ce qu'on soit déchu de son rôle de star, c'est la règle de bienséance, c'est de se tenir bien partout. C'est un pays qui est très puritain, donc il vaut mieux faire profil bas si jamais quelque chose nous attaque.
Et toi.
C'est ça. Si quelque chose nous attaque et fait l'actualité, il vaut mieux faire profil bas et dire je comprends.
Mais c'est vrai que la satire hollywoodienne est aussi très présente chez Trey Parker et Matt Stone. Ils attaquent les institutions en général. Donc dès que c'est une institution, d'autant plus si elle est présente près d'eux, ils vont taper dedans.
Ils vont taper dedans.
Et je reviens sur George Clooney. C'est vrai qu'il a été aussi un vecteur de succès. succès de la série parce qu'il a énormément partagé la vidéo à tous ses potes de l'époque. Et ça a dû jouer quand même sur le fait que ça arrive ensuite aux oreilles de la Fox et ainsi de
quand
suite.
Quand même, Urgence, Roseanne, South Park.
Une nuit en enfer. Très important de citer.
Batman et. Non. On doit quand même beaucoup de choses à Georges Clooney.
Super, ce groupe, il déchire. Et cette bœuf aussi.
Bon, j'ai l'impression que ça va, on est assez nombreux. Quand est-ce qu'on s'attaque aux grosses sociétés?
Ouais, mec, les grosses sociétés, elles violent notre planète pour se faire plein de fric.
Ouais, où est-ce qu'ils sont qu'on les arrête?
Aujourd'hui, on prouve l'inutilité de ces sociétés. Nous, le fric, on s'en tape, on peut devenir une communauté où on s'entraiderait les uns les autres.
Ouais, où il y aurait genre quelqu'un qui ferait du pain et genre quelqu'un d'autre qui s'occuperait de la sécurité des gens.
Tu veux dire un boulanger et un flic?
Oh non, essaie d'imaginer un endroit où les gens vivraient ensemble, tu vois, et fourniraient des trucs aux autres en échange de services que les autres leur fourniraient.
Ouais, ça s'appelle une ville.
Vous pigerez plus tard, quand vous irez à la fac. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez assister à un truc, mais énorme.
Bon, écoutez-moi attentivement. Le festival des hippies a atteint aujourd'hui 20 km de diamètre et une épaisseur de plus de 500 000 hippies.
Mon Dieu.
Dans moins de 3 jours, tout South Park sera complètement submergé. La solution serait de nous frayer un chemin jusqu'au centre de la foule et d'en atteindre le cœur, ici. Si on peut atteindre la scène, on mettra ce CD de Slayer dans le système de sonorisation. Les hippies détestent le death metal. Si notre mission réussit, la foule se dispersera avant qu'on soit submergé.
Chouette plan, Eric, excepté qu'il y a une gigantesque faille. Les hippies forment une foule compacte, alors comment tu comptes faire pour te frayer un chemin jusqu'à la scène?
On va forer. J'ai conçu ce véhicule qui peut s'enfoncer dans n'importe quel type de foule. Les pilotes à l'intérieur seront protégés de la fumée de joint et de la musique des hippies.
Tu comptes réellement aller à bord de cet engin jusqu'au cœur de la foule, mais voyons, c'est une mission suicide!
Je n'irai pas seul. J'ai besoin d'une équipe pour manœuvrer le véhicule. Je dois emmener avec moi un scientifique, un mécanicien, et bien sûr, un black qui pourra se sacrifier si jamais les choses tournent mal.
C'est grandiose. Alors, on parle de séries et d'animations depuis le début de cette émission, mais est-ce qu'en France, on aurait des équivalents destinés aux adultes qui oseraient parler de plein de sujets avec la même liberté de ton? Je vous pose la question. Est-ce que vous voyez, parce que moi, en préparant cette émission, j'ai pensé aux Kaira.
Ah, c'est vrai.
Oui, Canal Street. Ouais,
voilà, c'est vrai. Ouais, les Kaira ont ça effectivement. Mais tu vois, on a mis du temps quand même à trouver Pipoudou. Pipoudou éventuellement dans la liberté de ton effectivement et le côté un peu je vais loin dans au moins dans la vulgarité.
Pipoudou, alors s'il y a des enfants qui n'allaient pas voir Pipoudou avant 16 ans, c'est bien 16 ans.
Non, faites-le, franchement, faites-le, c'est mieux.
À 16 ans?
Allez-le, non, à 4 ans. Commencez à regarder Pipoudou vers 4-5 ans.
Vas-y.
Mais comme ça, on est dans la vie tout de suite, voilà, ça va plus vite, on franchit les étapes.
Encore beaucoup de mails à traiter.
Alors, il faut expliquer un petit peu ce qu'est Pipoudou.
Vous voulez en parler? Ou en détail ou... Oh, Pipoudou, c'est un petit personnage incarné à la voix par Brigitte
Lecordier. Brigitte Lecordier, la magnifique Brigitte, une grande dame qui double Oui, Goku, Son Goku.
Exactement, voilà. À qui il arrive des aventures qui pourraient être totalement enfantines et innocentes, mais en fait, ça tourne très vite sur des trucs de... Ça peut être de la sexualité, de la violence totale, voilà.
Voilà, mais en même temps, on apprend plein de choses.
C'est une sorte d'anti... Teletubbies.
Oui. Et c'est notamment aussi avec la participation du dessinateur Balak.
Oui, tout à fait.
Qui a travaillé sur Last Man.
Vermine.
Voilà, Vermine.
Sur les Kaira aussi.
Sur les Kaira, voilà. Donc, avec un style incroyable. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir un dessin animé français.
C'est très marrant,
complètement fou, allez voir Pipoudou. Et évidemment, on rappelle aussi les Kaira.
Oui. Très marrant aussi.
Donc, mais sinon, en dehors de ça. En France, on est quand même un petit peu timoré par rapport à l'animation. Et même, j'irais jusqu'à dire, par rapport à la satire de manière générale. C'est-à-dire que avoir des endroits, des lieux d'expression tels qu'on peut le voir aux États-Unis, qui sont pourtant un pays qu'on montre, qu'on pointe du doigt pour son côté conservateur, pudibond et tout ça, c'est vrai. Mais ils sont aussi capables de faire ça, alors qu'en France... j'ai l'impression que le moindre écart ou la moindre tentative de parler à la marge, c'est toujours un peu plus compliqué.
Je pense que les Américains ont cette force de se dire, si c'est susceptible de rapporter de l'argent, on y va. Alors qu'en France, il y aura toujours, encore malgré tout, malheureusement, une certaine crainte, effrayeur de se dire non, mais ça va choquer les gens, peut-être qu'on va avoir des plaintes et tout ça. Et donc, on refuse d'y aller. Alors que je pense sincèrement que, à partir du moment où c'est drôle, maîtrisé et intelligent, n'importe quel vecteur peut se transformer en or. Et donc oui, une série d'animation en France qui serait grand public pourrait très bien cartonner si on maîtrisait tous ces codes-là. Et ça marche toute proportion gardée. On parlait de Vermine ou Crazy Xiang, par exemple.
Oui.
C'est vraiment d'une qualité incroyable. C'est drôle et absurde par moments.
Ou Last Man de la même manière. Deuxième saison.
Et qui a un succès un peu plus retentissant que le reste, peut-être pour Last Man, vu que la BD déjà marchait très bien. Donc il y a une possibilité de le faire. Et je suis pour qu'on le fasse de plus en plus. Maintenant, je pense que, en tout cas, si on doit parler du média télévisuel, les têtes pensantes sont bien trop âgées et n'ont plus les codes nécessaires pour se dire que ça va marcher. Donc c'est ça le problème.
Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, et notamment par rapport aux États-Unis, même pour rebondir par rapport à l'actualité. Dernièrement, Elon Musk a racheté Twitter pour quelques centaines de milliards de dollars.
Ce qui est peu, en définitive. Hein.
Oui, parce que... Bon,
Sur l'échelle de l'économie mondiale,
oui, après, c'est de l'argent de poche.
C'est incroyable.
En fait, il avait déclaré que quand il rachèterait Twitter, il garantirait une liberté d'expression totale par rapport à notamment Donald Trump, dont le compte est supprimé depuis la fin de son mandat présidentiel. Et ça, finalement, c'est ce qui est assez représentatif de ce qu'est la question de la liberté d'expression aux États-Unis par rapport en France. Non pas que ce soit meilleur ou pire, c'est que l'histoire est différente entre les deux pays. Et en fait, aux États-Unis, on peut dire ce qu'on veut. Et donc, du coup, il y a moins de chances de pas forcément de susciter la controverse, mais en tout cas de se frotter directement à la cour pénale. Et en France, je vais pas dire... Voilà, encore une fois, les États-Unis ont plusieurs problèmes, mais évidemment, nous avons eu des histoires, il y a eu des guerres mondiales qui sont passées par là, et donc du coup, on ne peut pas tout dire. Il y a des discours qui tombent sous le coup de la loi, et qu'aux États-Unis, ces lois n'existent pas. Et donc du coup, c'est pour ça que peut-être que les producteurs ont peur en disant, vous n'avez pas peur qu'on joue quand même sur une ligne très très fine entre ce qui est légal et ce qui n'est pas.
Il faudrait payer un juriste pour qu'il vérifie cette ligne en disant...
Il suffit juste de voir dans un autre ordre d'idée quand il y avait eu les problèmes avec le Club Dorothée et les animés japonais, oui. Où ils avaient fait appel à une cinquantaine de psychologues, Azoulay et Berda, enfin Jean-Luc Azoulay, Claude Berda, je crois, oui. Les noms des créateurs du Club Dorothée. Ils avaient fait appel à une cinquantaine de psychologues et de pédopsychiatres pour vérifier que les enfants pouvaient bien voir ça, comme s'ils ne pouvaient pas prendre la décision eux-mêmes. Et donc du coup, c'est ça en fait qui est assez particulier, c'est qu'il faut quand même des instances de direction et de régulation de ce qui peut se dire et ce qui peut ne pas se dire, et c'est quand même une bonne chose. On va pas se mentir, mais voilà. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'il y a une grande différence notable entre la France et les États-Unis par rapport au cartoon.
Et alors, avant de terminer cette émission, est-ce qu'il y a d'autres séries d'animation pour adultes ou autres plus récentes que vous conseillerez à quelqu'un qui aurait adoré South Park et qui serait en manque comme ça, qui dirait mais qu'est-ce que je regarde aujourd'hui? Alors je sais qu'on a évoqué évidemment l'indépassable Rick et Morty, qui est quand même un... Mais est-ce qu'il y a d'autres séries qui méritent comme ça votre attention?
Oui, il y en a vraiment beaucoup, mais moi, parmi les récentes, celle qui me vient en tête, c'est BoJack Horseman.
Ouais, oui.
On utilise le mot chef-d'œuvre à tour de bras pour tout n'importe quoi, mais c'est vraiment, pour moi, il y a une... C'est une étape, comme l'a été Les Simpsons, comme l'a été d'autres séries, South Park, bien sûr. BoJack, c'est incroyable, puisque c'est... on retrouve un peu une filiation, mais avec Les Simpsons, dans le sens où ça brasse un panel d'émotions assez large. Parce que là, on parle d'un personnage principal dépressif. Là, c'est vraiment le milieu hollywoodien qui est brocardé.
On rappelle que vous pouvez avoir accès à cette série sur Netflix.
Sur Netflix, voilà. C'est aussi drôle que percutant. C'est malaisant. Ça vous fait pleurer. Ça vous fait rire. C'est une série, je pense, qui résonne vraiment au cœur des gens. Et selon son vécu, selon ses traumas, selon son existence, on y projette ce qu'on veut en fait. Mais c'est une série d'une richesse, d'une écriture, d'une audace en termes de réalisation. Enfin, je pourrais dérouler comme ça 3 heures. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est des animaux anthropomorphiques. Alors, au début, c'est un peu choquant parce que notre héros, donc BoJack, a une tête de cheval et un corps d'être humain. Voilà, on va le voir coucher avec des starlettes, etc. Au début, on se dit tiens, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé 30 secondes, on trouve ça normal, qu'on ait des hommes pigeons qui volent, qu'on ait un acteur à tête de cheval, etc. C'est une leçon d'écriture pour moi, et j'invite vraiment, vraiment tous ceux, enfin celles et ceux qui nous écoutent, de regarder ça sur Netflix, et c'est extraordinaire.
Et c'est aussi très drôle d'ailleurs.
Et c'est voilà, c'est ce que drôle. Je disais, c'est que c'est dans l'humour, c'est extrêmement drôle, c'est très cynique aussi, et dans le côté dramatique. C'est aussi une leçon en fait. Vraiment, ça s'accroche toutes les cases et ça le fait superbement bien.
Et je rajouterais qu'en termes de mise en scène, c'est aussi très impressionnant par moments. Il y a un épisode spécifique qui se passe sous l'eau.
Exactement.
Où pendant 26 minutes, ça ne parle jamais, mais ça communique malgré tout. Et c'est d'une
force,
maîtrise assez folle par rapport à tout ce qui se passe dans l'épisode. Ça, toute proportion gardée, ça rappelle un peu le travail de Jacques Tati sur pas mal de trucs. Et c'est impressionnant de voir ça. Je sais que cet épisode m'avait profondément marqué. Je me suis dit, mais c'est des génies de faire ça, quoi.
En termes narratifs, c'est des audaces en permanence. Il y a un épisode où c'est un monologue du héros Bojack à un enterrement, enfin une cérémonie.
Ouais.
Et il parle pendant 20 minutes. Il est cadré, il parle. Et c'est que ça. Et c'est tellement bien écrit qu'on ne voit pas les 20 minutes passer, on est scotché devant l'écran. Et c'est que des audaces narratives comme ça. Et ouais, non, c'est Bojack Horseman, pour moi, c'est la dernière vraiment sitcom d'animation qui va marquer les esprits pendant des décennies, je pense.
Tanguy Bessely ?
Alors, il y en a une qui a déjà quelques années quand même une dizaine d'années pour tout dire, mais sur laquelle on revient pas beaucoup, notamment parce que c'est d'Adult Swim, et Adult Swim depuis il y a eu Rick et Morty qui a pris beaucoup de place, c'est Robot Chicken,
oui,
de
oui.
Seth Green et Matthew Senreich, c'est un peu dans la veine South Park. Alors là par contre c'est vraiment une suite de sketch en pâte à modeler, fait eux par contre en stop motion. C'est vrai qu'on l'a pas dit sur South Park, mais à la base c'est du papier découpé, mais derrière c'est devenu très vite tout informatisé.
Pour
aller plus vite, évidemment, puisqu'ils font les épisodes en 6 jours. Néanmoins, voilà, Robot Chicken, eux, ils font une saison entière en stop motion, en pâte à modeler. Ça parodie à peu près tout ce qui passe. Il y a des sketchs incroyables. Tout n'est pas très bon, mais quand c'est très drôle, c'est vraiment très très drôle. Un épisode d'Avatar sur Avatar, un sketch sur Avatar qui est incroyable, où ils font du hip-hop. Un épisode sur la mort d'Eddie Murphy et des cadres de la Warner au sortir de Pluto Nash, qui s'appelle, où ils ont fait un sketch qui s'appelle le Pluto Nash Day. Ou alors Optimus Prime qui a un cancer de la prostate. Enfin, c'est des trucs d'une bêtise sans fin. Voilà, super. Et autrement, plutôt récent, je suis pas très fan des dernières saisons, mais les deux premières saisons de Big Mouth,
ouais,
de Nick Kroll, qui sont vraiment pas mal, mais qui ont un angle un peu plus pas ouvert aux enfants, parce que c'est quand même très vulgaire, mais il y a un angle un peu plus pédagogique sur les questions de sexualité, sur les questions d'ouverture aux autres, d'ouverture aux gens. Et voilà, c'est encore autre chose par rapport à South Park, par rapport à Robot Chicken, même par rapport à Bojack Horseman. Mais voilà, c'est les deux conseils que je pourrais vous donner.
Ouais, moi je dirais Big Mouth aussi pour les mêmes raisons, sachant que c'est un très léger pendant de South Park. Si South Park parle d'enfants, là on est un peu plus dans de l'adolescence, et ça tourne autour des thématiques de la terreur au moment adolescent, des questionnements et tout ça. Et je trouve ça très malin d'avoir incarné les pulsions par des monstres. Typiquement, voilà, quand on connaît un petit peu la série, c'est une transversalité qui est intéressante pour incarner quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouvais ça malin. Et à côté de ça, effectivement, c'est aussi très marrant par moments. Il y a d'ailleurs eu un spin-off récemment de cette série.
Qui est arrivé récemment aussi. Ouais.
C'est sur l'espèce de start-up
de ces monstres-là, ouais, justement.
Et ben moi j'ajouterais, je le répète, Gumball, évidemment, si vous avez des enfants, si vous voulez vraiment les initier à une forme de délire qui des fois touche vraiment au sublime, Gumball. Et puis également, si vous êtes fan de super-héros, parce que vous êtes toujours près de mon cœur, la série des Teen Titans, voilà, qui est vraiment 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 excellente, et notamment le film des Teen Titans où on les voit remonter dans le temps pour empêcher les parents de Bruce Wayne de se faire tuer, et donc ils ne deviennent pas Batman. Mais quand ils voient tout ce que ça génère comme catastrophe, ben ils retombent dans le temps et c'est ce que j'ai vu le plus cruel dans le monde DC Comics, mais qui est très très drôle. Évidemment, mention spéciale aussi à la série Harley Quinn, mais ça il faut être un peu plus vieux, le dessin animé Harley Quinn. Enfin bref, que du choix et encore plein de possibilités de blockbusters à venir. Bruno Roca, Tanguy Bosselli, Dedo, merci d'avoir parlé de South Park avec moi dans Blockbuster. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Étienne Bertin. Il a été préparé par Fabrice Rivaud et aujourd'hui à la technique, et on la remercie, Alix Barrois. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Ou sur Twitter et parler avec moi avec le hashtag BlockbusterEFI. Everything worked out. What a happy end.
Americans and Canadians are friends again. So let's all join hands and knock oppression down.
Gloria Patri!
You know, our little lives are now complete.
'Cause Terrence and Philip are sweet.
Super sweet!
Thank God we live in this quiet little disentangled. Hold on, drink water, drink water. One horse, one whole brain, one bright way. This is not quiet, male, drunk, bright, old friends, racing, green bread, hungry, private, uncut, white friends.
Kick it!
Blockbuster est un podcast original de France Inter.
France Inter.